respecter les gens qui sont à l'heure. D'accord. Donc je vous remercie d'être là ce soir. Vous savez que Octobre Rose a débuté donc début octobre avec pour Poitiers un lâcher de ballon, puis un défilé, et puis la mairie et la place du palais de justice éclairée en rose, qui traduit tout de même de la part de notre municipalité un accent fort sur la notion de prévention, éducation et dépistage dans le cadre du cancer. Alors, Octobre Rose, en fait, ça date d'il y a 6 ans. C'est l'Institut national du cancer qui a décidé que le mois d'octobre s'appellerait Octobre Rose, mais il faut savoir que depuis 1994, le mois d'octobre était le cancer du sein, parlons-en. Donc c'était la Ligue qui avait été à l'initiative de ça. Les choses ont évolué et le mois d'octobre est devenu, au niveau international et mondial, donc le mois du cancer du sein. Alors, pourquoi il faut, ou il a été décidé qu'il y ait un mois du cancer du sein? Eh bien, parce que c'est la première tumeur, disons peut-être la deuxième après le cancer du col de l'utérus. C'est l'une des premières tumeurs pour lesquelles on s'est aperçu, par l'intermédiaire d'études sur des milliers de femmes, que le dépistage permettait de diminuer la mortalité par cancer du sein. Suite à ces études, dans d'autres tumeurs, cela est arrivé aussi, le cancer du côlon maintenant, et puis je pense que le docteur Coste nous en parlera peut-être ou nous dira deux mots, ce qui veut dire qu'un dépistage permet de diminuer la mortalité. Alors, ce dépistage, il a été démontré comme diminuant la mortalité dans une tranche d'âge. Alors, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, mais c'est comme ça. C'est 50-74 ans. Avant, le dépistage ne semble pas ou ne montre pas de bénéfice en diminution de la mortalité, sans doute pour deux raisons qui sont simples. La première, c'est que la structure de la glande mammaire à la mammographie est d'interprétation beaucoup plus difficile. Et puis que la mammographie tous les 2 ans, dans cette tranche d'âge, peut laisser passer des cancers qui sont beaucoup plus évolutifs. Et puis au-delà de 75 ans, le dépistage n'a pas démontré de bénéfice en diminution de mortalité. Donc voilà comment on en est arrivé à la tranche 50-74 ans. Il faut savoir, et j'ai quelques chiffres que j'ai eus aujourd'hui, qu'en Poitou-Charentes, le dépistage du cancer du sein a débuté en 2003, c'est bien ça ?
Dans la Vienne,
mais enfin, globalement, on en est à 470 cancers du sein dépistés avant qu'il soit trop tard. Vous allez vous dire, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Il faut savoir que dans notre région, on est à 1441 cas en 2005, nouveau cancer du sein. Donc déjà, si on peut dépister tôt un tiers de ces cancers, ça sera peut-être, je ne dis pas un tiers, mais on va espérer un tiers de personnes guéries. Alors le problème, il est simple, c'est que toutes ces études ont montré une chose. C'est que si on dépiste, si 50% des femmes dans cette tranche d'âge rentrent dans le dépistage, ça ne sert à rien. Ça sert pour elle, mais pas pour le problème de santé publique. Le dépistage organisé devient efficace si on a au moins 80% des femmes de cette tranche d'âge qui rentrent dans ce dépistage. En 2008, c'est ça, on était à 58%, quelque chose comme ça. Catastrophe, 2009, 53%. C'est en baisse, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi. On n'a pas le temps. On n'est pas à 8 jours près pour faire le dépistage. On a peur. On va y revenir. Le contexte économique, la société, peut-être. Je pense que c'est la peur, en fait. C'est la peur d'aller se faire dépister. Et si on me trouve quelque chose ? Mais il faut savoir que si on vous trouve quelque chose, c'est que c'est tout petit et que vous avez toutes les chances de guérir. Alors que si vous faites l'autruche, ça ne marchera pas. Vous arrivez à un stade où, on en parlera avec Stéphanie ou avec Ahmed, ça devient plus difficile. Et les progrès dans la guérison du cancer du sein, ils viennent certes des traitements, heureusement, parce que vu le prix que ça coûte, ça peut servir à quelque chose. Mais le moins cher, c'est tout de même du civisme, de l'éducation. On est une femme, on a 50 ans, eh bien, on participe au dépistage. Alors, le dépistage organisé ou le dépistage individuel, disons la mammographie standard. C'est plus convivial, la mammographie standard. Certes, je ne dis pas que les radiologues sont des incompétents quand ils font une mammographie standard, loin de là. Le dépistage organisé, il a un avantage, c'est que d'une part, vous avez une mammographie qui est analysée par des médecins qui ont été et des radiologues validés, labellisés par l'Institut national du cancer. Et puis surtout, il y a une deuxième lecture. Deuxième lecture, c'est-à-dire que si le premier s'est trompé, il y en a un deuxième qui rattrape le tir derrière. Et après, il y a confrontation. Donc vous avez une sécurité supérieure dans le cadre du dépistage. Alors c'est vrai, bon, c'est peut-être pas très plaisant de recevoir une lettre chez soi en disant, eh bien, vous êtes invité à faire. Mais si ça vous permet d'être guéri si on vous trouve un cancer du sein, sans mutilation, ou avec une mutilation minimum, la grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Maintenant, je vous laisse réfléchir et je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous faire, disons, un certain nombre de topos. Stéphanie va vous parler des traitements du cancer du sein, mais si on est dépisté, peut-être qu'on n'a pas besoin de traitement, comme elle va l'expliquer. Et puis, Ahmed va vous parler de la radiologie, du dépistage du cancer du sein, pas pour vous rassurer, mais pour vous dire que c'est quelque chose qui est tout de même encadré et très sérieux. Merci.
C'est moi qui commence.
Le responsable du dépistage.
Voilà, tu as presque tout dit. Hein, donc, oui. Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu et d'épidémiologie et du dépistage organisé du cancer du sein dans le département. Donc j'ai été pendant 8 ans le médecin coordinateur du dépistage dans le département de la Vienne. Et maintenant, je suis le président de l'association qui assure ce dépistage. Donc, le professeur Tourani vous a dit tout à l'heure que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France, chez la femme. Donc, actuellement, ce sont les projections pour 2010. On n'a pas de chiffres, bien sûr. Les chiffres qu'on a actuellement, c'est des chiffres qui datent de 2005. Et puis après, par des calculs statistiques, on peut faire des projections sur les années à venir. Donc, vous voyez, là, on est chez la femme, en 2010, le nombre de nouveaux cas est de 52 000. Chaque année, il y a 52 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Vous voyez qu'il arrive largement en tête devant le cancer du côlon, du colorectal, et puis le cancer du poumon qui arrive en troisième position. Et puis après, tous les autres cancers qui sont beaucoup plus loin. Au niveau des décès, le cancer du sein arrive aussi en tête devant le cancer colorectal. Et puis vous voyez que le cancer du poumon arrive en troisième position. Là, je sors un peu du dépistage du cancer du sein. Aux États-Unis, le cancer du poumon chez la femme est passé avant le cancer du sein. Tout ça à cause, bien sûr, du tabagisme. Le cancer du sein a augmenté depuis une trentaine d'années, régulièrement. Le nombre de nouveaux cas chaque année a doublé en 30 ans. Là, la courbe que je vous donne, elle commence simplement en 1990, donc il y a 10 ans. Et vous voyez que le nombre de cas il y a 10 ans était autour de 30 000 et que là, maintenant, il est à 50 000. Donc, en assuré, ce sont les années où ce sont des projections et non pas des chiffres définitifs. Mais vous voyez que depuis 1990, le nombre de cancers a augmenté régulièrement. Par contre, si on prend non pas le nombre de cancers, mais la mortalité par cancer pendant la même période, vous voyez qu'elle a très très peu augmenté au début et que depuis 2007, elle s'est stabilisée et qu'elle diminue très légèrement. Et donc, si on met ces deux courbes en parallèle, vous voyez d'un côté l'augmentation du nombre de cas et puis la mortalité qui stagne. Alors, l'augmentation du nombre de cas, elle est due à un certain nombre de facteurs évidents. Le premier, c'est l'augmentation de la population. Plus il y a de personnes, bien sûr, plus il y aura de cancers. Le deuxième, c'est le vieillissement de la population. La population vieillit. Le cancer du sein, comme tous les cancers, est un cancer qui survient à partir d'un certain âge. Plus il y aura de personnes âgées, plus il y aura de cancer du sein. Une autre cause, c'est le dépistage, qui permet d'en trouver plus, et donc on va majorer le nombre de cancers connus. Et puis, il peut y avoir d'autres causes, alors qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence sur l'environnement, les conditions de vie, les produits phytosanitaires, etc. Alors, en Poitou-Charentes, il y a, pour à partir de 2005, parce que là aussi on n'a pas des chiffres de très très récents, c'est très long de mettre des chiffres validés, donc on a 1441 nouveaux cas par an de cancer du sein et 340 décès. Vous voyez là aussi que le cancer du sein arrive avant le cancer colorectal et avant le cancer du poumon. On n'a pas les chiffres département par département, mais le département de la Vienne fait à peu près un quart du Poitou-Charentes. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque pour le cancer du sein. Le premier facteur, c'est bien sûr l'âge, on vous l'a dit, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Il y a des facteurs hormonaux. Donc la puberté précoce et la ménopause tardive sont des facteurs de risque. Plus la fille aura des règles précoces, plus la femme sera ménopausée tard, plus la vie génitale aura duré longtemps, c'est un problème d'imprégnation hormonale et plus le risque est grand. De la même manière, avec sur le même rôle hormonal, la nulliparité, le fait de ne pas avoir une grossesse ou une première grossesse tardive sont des facteurs de risque. Donc tout ça, c'est des facteurs sur lesquels on ne peut pas grand-chose. Par contre, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut. C'est le régime alimentaire, l'excès d'alcool, de sucre, de graisse animale, la surcharge pondérale et la sédentarité aussi, qui sont des facteurs de risque. On vous parlera peut-être tout à l'heure du traitement hormonal substitutif et du rôle qu'il aurait peut-être un peu joué dans le déclenchement des cancers et qui doit donc rendre prudent sur la décision de mettre en route ce traitement. Et puis, il y a aussi des facteurs héréditaires. Donc, à contrario, il y a des facteurs qui protègent. Les facteurs qui protègent, c'est le fait d'avoir une certaine activité physique, de ne pas avoir de surcharge pondérale et d'avoir un régime alimentaire équilibré. Je vous parlais du rôle de l'âge dans les cancers. Donc là, vous avez, en France, le nombre de cancers en 2010 et la mortalité par tranche d'âge. Et vous voyez que la tranche d'âge où le dépistage organisé se fait, c'est-à-dire entre 50 et 74 ans, vous avez 20 000, presque 21 000, plus 10 000 cancers, donc ce qui fait à peu près 30 000, et vous avez 5 000 décès dans cette tranche d'âge. Vous voyez que ça fait un peu plus de la totalité du nombre de nouveaux cas et du nombre de décès, mais vous voyez quand même que dans la tranche d'âge avant 50 ans, il y a pas mal de cancers et des décès, et dans la tranche d'âge après 75 ans aussi. Alors, le dépistage, donc ça consiste à détecter une lésion précancéreuse ou un cancer au tout début, à un stade précoce, avant l'apparition de signes d'alarme, de signes cliniques. Si la femme sent une tumeur, une boule dans son sein, on n'est plus au stade du dépistage, mais on est déjà au stade du diagnostic d'une anomalie. Le but et la justification, M. Tourani vous l'a dit tout à l'heure, ça permet un traitement plus efficace, avec meilleure chance de guérison, et puis un traitement moins lourd, c'est-à-dire qu'un cancer détecté au tout début, l'intervention chirurgicale et le traitement médical après seront plus légers. Il y a deux types de dépistage, donc M. Tourani vous l'a dit aussi. Le dépistage individuel, c'est quand une personne, une femme, va voir son médecin traitant et que le médecin dit, on va vous faire une mammographie. Donc l'ennui de ce type de dépistage, c'est que ça laisse de côté une partie de la population, les femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller voir leur médecin, etc. Et puis, il n'y a pas de démarche d'évaluation ni d'examen de qualité, ni de vérification de la qualité des examens. Pardon, monsieur le radiologue. Ça veut dire que le radiologue fait sa mammographie, mais on ne recueille aucune donnée après et on ne peut pas regrouper toutes ces données pour étudier la situation du dépistage, pour savoir ce qui se passe réellement. Dans le dépistage organisé, ça implique un maximum de personnes parce que toute la population de la tranche d'âge considérée est invitée. Il y a une vérification très rigoureuse de la qualité du matériel, de la qualité des examens. Et puis, ça permet une démarche d'évaluation parce que toutes les données sont recueillies et remontées au niveau national. Alors, la mise en place d'un dépistage organisé, ça nécessite des conditions assez strictes liées au cancer et aux tests qu'on utilise parce que c'est quelque chose de lourd de mettre en place un dépistage organisé. En France, actuellement, il n'y a que deux maladies pour lesquelles on fait ce dépistage organisé, le cancer du sein et puis le cancer de l'intestin depuis 2 ans à peu près dans le département de la Vienne. Alors, les conditions, elles sont liées à la maladie. Il faut que ce soit une maladie fréquente, vous l'avez vu pour le cancer du sein, une maladie grave, vous l'avez vu aussi. Et il faut, M. Tourani, le professeur Tourani vous l'a dit tout à l'heure, qu'on ait la conviction, la preuve, que le pronostic précoce et le traitement précoce, que le diagnostic précoce et le traitement précoce améliorent l'évolution des choses. C'est vrai pour le cancer du sein. Il y a certains cancers pour lesquels, pour l'instant, ça n'est pas prouvé, donc on reste dans l'incertitude. Pour le cancer du sein, c'est prouvé. Et puis, il faut qu'on ait un test aussi, c'est pas tout. Et donc là, on a un test, c'est la mammographie. Le docteur Moumou vous en parlera tout à l'heure. Il faut que le test soit efficace, il faut qu'il soit bien accepté par la population, il faut qu'il ne fasse pas courir de risque à la personne à qui l'on fait le test. Et puis, il faut quand même qu'il ait un coût économique acceptable pour la société. On ne peut pas tout faire dans tous les domaines. Donc, si on applique ces notions au dépistage du cancer du sein, on a fait un certain nombre d'essais qui sont un petit peu anciens maintenant parce que c'est très difficile de faire des essais, très lourds, très compliqués. Et ces essais prouvaient qu'on peut réduire la mortalité par cancer du sein d'environ 30% si on s'adressait à la bonne tranche d'âge, c'est-à-dire 50 à 70 ans, bon maintenant on dit 74 ans, et si le taux de participation est important. Là, il était dit avant 60%, puis après on est passé à 70%. Et puis, s'il y a une organisation rigoureuse qui permet de voir exactement ce qui se passe. Donc, dans le département de la Vienne, il y a une association qui s'appelle DocVie et qui gère le dépistage du cancer du sein. Donc là, je vous ai mis les membres de cette association, ce sont en fait les membres financeurs. Si je vous l'ai mis, c'est simplement pour vous montrer que ce n'est pas une idée qui est venue comme ça de la tête de quelqu'un tout seul dans son coin. Il y a les 3 caisses d'assurance maladie, le Conseil général, la Ligue contre le cancer et la Mutualité de la Vienne. Et donc, cette association, elle assure localement la gestion du dépistage du sein. Elle le fait en conformité avec un cahier des charges national. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Tout est balisé par un cahier des charges qui nous dit la manière dont doivent être faits les examens, les données que l'on doit recueillir, la fréquence à laquelle on doit faire ces examens. Et cet dépistage, il s'inscrit dans le cadre du plan national de la lutte contre le cancer. Il y a un plan cancer, il y en a eu un premier, et puis maintenant c'est un deuxième, 2009-2013. Alors sur le plan très pratique, il y a des invitations qui sont envoyées à toutes les femmes de 50 à 74 ans, et ça concerne une population de 57-58 000 femmes dans le département de la Vienne. Les femmes sont invitées tous les 2 ans à passer une mammographie. Il y a une invitation et une prise en charge par la structure de gestion. Mais la femme peut aussi aller de son initiative, de sa propre initiative. Elle peut être envoyée par son médecin traitant, être intégrée par le radiologue directement dans le cadre du dépistage organisé. Lorsque la femme n'a pas répondu à l'invitation, on lui envoie une relance au bout de 6 mois. Et puis, si elle ne répond pas à cette relance, on arrête, on ne va pas plus loin, parce qu'après tout, il y a la liberté individuelle, la liberté de chacun. Il y a un certain nombre de personnes qui sont exclues normalement du dépistage organisé. Ce sont les femmes qui sont adressées pour déjà un symptôme, puisqu'à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre du dépistage, mais c'est un diagnostic que fait le radiologue et puis le gynécologue après. Il y a les femmes qui sont traitées ou surveillées après un cancer ou surveillées pour une image anormale. Ce sont des femmes à risque Et à ce moment-là, ces femmes relèvent d'un suivi individuel. De la même manière que lorsque les femmes ont un risque familial, c'est-à-dire que dans la famille, il y a eu des antécédents au niveau d'une mère ou d'une sœur, à ce moment-là, on rentre dans le cadre du suivi individuel, mais plus du dépistage organisé. Et puis, lorsque les femmes ont une mammographie normale de moins de 20 mois, elles ne rentrent pas dans le cadre de la campagne, puisque c'est simplement une fois tous les deux ans. Alors, la mammographie, elle peut se faire au cabinet de ville, dans un cabinet libéral ou dans un centre hospitalier, au choix de la patiente, à condition que le radiologue ait adhéré à la convention. Il ait signé une convention avec les caisses, et cette convention dit que le radiologue doit avoir fait une formation spécifique au dépistage organisé. Il doit s'engager à avoir une surveillance spécifique de ses appareils par une société extérieure qui vient les contrôler tous les 6 mois. Il doit s'engager à faire un certain nombre minimum de mammographies, 500 par an, pour avoir une compétence, une capacité à les lire correctement. Alors, la mammographie, au début, c'était des mammographies classiques, ce qu'on appelle les mammographies analogiques, et puis maintenant, presque tous les radiologues se sont mis aux mammographies numériques. Il y a 2 incidences, 2 clichés par sein. Le radiologue doit faire un examen clinique, et s'il trouve une anomalie au niveau de la mammographie, il a la possibilité de faire un examen complémentaire, en particulier de faire une échographie. Donc, il y a encore des gens qui disent que la mammographie, dans le cadre du dépistage organisé, c'est moins bien fait qu'une mammographie normale, d'une mammographie hors dépistage organisé. C'est totalement faux. C'est le même examen avec le même radiologue, avec les mêmes appareils. Simplement, en plus, il y a une deuxième lecture, on y reviendra. Donc, si la mammographie est anormale, il n'y a pas de deuxième lecture, puisqu'à ce moment-là, la patiente, elle rentre directement dans le circuit de la surveillance et des examens complémentaires, donc le docteur Moumou vous en parlera, soit une surveillance simple avec une mammographie 6 mois après, au lieu d'attendre les 2 ans, soit quelquefois des examens complémentaires, des biopsies, etc. De toute manière, le radiologue envoie les résultats à la structure de gestion. Et si la mammographie est normale, à ce moment-là, c'est le cliché de la femme qui est remonté à la structure de gestion. Et là, il y a un deuxième radiologue qui va faire une deuxième lecture. Ce deuxième radiologue, il a fait la formation pour être radiologue premier lecteur. Et il a fait aussi une formation spécifique pour être radiologue deuxième lecteur. Si cette deuxième lecture est elle aussi négative, c'est-à-dire normale, on envoie les résultats et le cliché à la patiente et on envoie aussi les résultats au médecin traitant. Si jamais la deuxième lecture montre une anomalie que n'avait pas vue le premier radiologue, à ce moment-là, le cliché il est renvoyé au premier radiologue qui va faire des examens complémentaires. Donc là, je vous ai mis ça sur un petit schéma. Donc lorsque vous avez une première lecture normal, une seconde lecture. S'il n'y a rien à la seconde lecture, la femme est réinvitée à 2 ans. S'il y a une anomalie à la première lecture ou à l'examen clinique, le radiologue peut faire des examens plus complets, c'est-à-dire un bilan diagnostique immédiat. Si ce bilan diagnostique immédiat, l'échographie en l'occurrence, montre une anomalie, à ce moment-là, la patiente est suivie en fonction de ce qu'on a vu. Si ça montre que le résultat final est normal, il y a une deuxième lecture. Alors, les résultats nationaux, en 2009, il y a eu 2 300 000 femmes qui ont participé au dépistage organisé, et cela représente un taux de participation de 53%. Donc, vous voyez qu'on est loin des 70% espérés. Et pour l'année 2006, le dépistage organisé, puisque là, les résultats, les remontées des résultats de cancer sont toujours assez longs. Pour l'année 2006, on avait trouvé 12 900 cancers, ce qui représente un taux de 6,3%. Ça veut dire pour 1000 femmes. Ça veut dire que lorsqu'on fait 1000 mammographies, on voit 1000 femmes en mammographie, en gros, on trouve un cancer dans 6 fois. Et la deuxième lecture dont je vous parlais à l'instant, permet de repérer à peu près 6% de l'ensemble des cancers. C'est-à-dire sur les 12 000 cancers qu'on a trouvés en 2006, 6% ont été trouvés grâce à la deuxième lecture. Alors là, je vous ai marqué deux courbes qui sont, d'une part, le taux de participation au niveau national depuis les années 2003 et puis le taux de participation dans le département de la Vienne. Alors, vous voyez que au niveau national, il y a une très légère augmentation, une augmentation un petit peu importante en 2003-2005, et puis que depuis 2006, ça monte très très doucement. Nous, dans le département de la Vienne, on était parti un petit peu en dessous, et puis on avait bien grignoté. En 2007, on était passé au-dessus du niveau national, en 2008, nettement au-dessus, et là, en 2009, effectivement, on est redescendu. Donc, on avait un taux de participation de 58% en 2008. On est passé à 52% en 2009. Bon, là, c'est une carte qui date de 2008 pour vous montrer le taux de participation des différents départements. Donc, vous voyez que globalement, le taux de participation était à 52%, mais qu'il y a des départements qui avaient moins de 40% et d'autres qui avaient plus de 60%. Et c'est probablement pas tout à fait lié au hasard, parce que vous voyez quand même qu'il y a des regroupements géographiques dans l'ouest de la France qui traduisent peut-être une certaine forme de discipline, soit des patients, soit des médecins, je ne sais pas, mais et dans le sud-ouest aussi. Alors, pour en revenir à notre département de la Vienne, vous voyez ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, le taux de participation qui en 2003 était de 20%, qui a monté régulièrement jusqu'en 2008, et en 2009, il a chuté. Et puis en dessous, c'est le nombre de mammographies réellement pratiquées, non plus des taux de participation, mais le nombre de mammographies. On avait commencé par 6000 mammographies en 2003, la première année. On est monté jusqu'à 16 009, donc presque 17 000 en 2008. Et là, on est redescendu à 15 000 en 2009. Alors, pourquoi est-ce qu'on est redescendu? On s'est posé beaucoup de questions. On n'a pas trop su. Alors, on s'est dit, c'est peut-être la crise. Mais si ça avait été la crise, eh ben, ça aurait baissé dans l'ensemble de la France et pas uniquement dans Poitiers. Alors, bon, il y a eu dans la ville de Poitiers une restructuration radiologique qui a peut-être un petit peu compliqué les choses, les prises de rendez-vous. Est-ce que c'est ça? Toujours est-il que sur l'année 2010, on est reparti sur des chiffres de 2008 et là, actuellement, on est à 58% de taux de participation. Si on continue comme ça, on sera à la fin de l'année entre 58 et 60 et donc, bon, on aura eu un petit à-coup qu'on ne peut pas trop expliquer. Alors, il y a un certain nombre de freins au dépistage. Voilà, je sautais ça par contre. Parce qu'on vous parle de dépistage, c'est parce qu'il y a des cancers derrière. Et donc ça, c'est le nombre de cancers trouvés chaque année dans le cadre de la campagne de dépistage. Alors, vous ne tenez pas compte de l'année 2010 qui est en cours et les chiffres 2010, on les connaîtra au mois de juin 2011. Donc, vous voyez que sur les trois dernières années, on trouve à peu près 90 cancers par an dans le cadre de la campagne de dépistage. En fait, on trouve un quart des cancers dans le dépistage organisé. On peut dire que c'est peu ou que c'est beaucoup, mais de toute manière, déjà, puisqu'il y a un taux de participation de 50%, fatalement, on peut trouver que les cancers chez les femmes qui participent. Et puis, je vous ai montré dans les courbes de tout à l'heure qu'il y avait quand même beaucoup de cancers avant 50 ans et après 74 ans qu'on ne peut pas dépister dans le cadre du dépistage organisé par définition. Il y a un certain nombre de... Il saute très vite, cet appareil. Il y a un certain nombre de freins au dépistage. Le professeur Tourani vous en a parlé tout à l'heure. Il y a d'abord des raisons sociologiques. Alors, les raisons sociologiques, ben, c'est des femmes qui sont en difficulté, qui ont des situations précaires et qui ont d'autres soucis. Le souci principal étant d'assurer l'urgence au quotidien. Et tout ce qui est problème de prévention et de dépistage, on a du mal à les faire participer. Et ça, c'est très ennuyeux. Il y a des soucis qui sont des raisons qui sont liées à la mammographie en général. Des femmes qui ne veulent pas de mammographie parce que ça fait mal. Bon, je crois qu'il faut dire à ce moment-là que la douleur, c'est quand même pas insurmontable. Et puis que le bénéfice qu'on peut en tirer est quand même nettement supérieur à la petite gêne qui dure quelques instants, liée à la mammographie en général ou au résultat de la mammographie, c'est-à-dire des femmes qui ne veulent pas savoir. Et le professeur Tourani vous l'a dit tout à l'heure. Ou bien la mammographie est négative et donc à ce moment-là, la femme est rassurée pour les deux ans qui viennent, ou bien la mammographie montre quelque chose et normalement, par définition, c'est quelque chose qui sera pris à un stade très précoce et donc qui améliorera les chances de guérison. Donc il ne faut pas avoir peur du résultat. Et puis, il y a des réticences liées à la campagne de dépistage en général, parce qu'effectivement, on a fait courir des bruits en disant que le dépistage organisé, c'était moins bien ou moins sérieux que la mammographie individuelle. Et donc, je réinsiste là-dessus, c'est totalement faux de dire ça. Et puis, effectivement, il y a comme d'habitude les gens qui ne se sentent pas concernés, parce qu'on sait bien que la maladie, par définition, c'est toujours pour les autres, jusqu'au jour où ça vous tombe dessus. Et puis, il y a aussi eu des réticences quand même au niveau du corps médical, parce que la tradition française médicale, elle est assez individualiste, parce que tout ce qui est institutionnel, une campagne de dépistage, c'est pris en charge par l'État, par la Sécurité sociale, et bien tout ça, ça ne plaît pas obligatoirement à tous les médecins. Et puis, en France, il y a un certain manque de culture générale. La France n'est pas un pays de grande tradition de culture générale. Donc, en conclusion, je vous dirais que le dépistage organisé, il permet de détecter des lésions à un stade précoce. Il a l'avantage d'une deuxième lecture qui sécurise le résultat et qui fait qu'il est de meilleure qualité que le dépistage, que la mammographie hors dépistage organisé. Et puis, il n'a de sens, et ça faut le dire, que s'il est pratiqué régulièrement tous les deux ans, une mammographie n'est pas un examen qui protège en soi, qui évite l'apparition du cancer. C'est un examen qui le révèle très tôt. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Le professeur Tourani, il ne m'a pas concerté, mais il aurait dû, parce qu'il a commencé en parlant d'Octobre Rose, qui débute donc maintenant, d'une marche qui s'était faite sur Poitiers. Il a terminé en parlant des ballons et en parlant de la mairie illuminée en rose. Il y en a qui étaient là samedi, ben voilà. Je vous remercie.
Merci. Comment voulez-vous qu'on procède? Est-ce que vous souhaitez que l'on pose... Non, là j'entends là-bas, bon, après, d'accord. Donc l'affaire est réglée. Non, c'est vrai que c'est dans notre culture... Prendre un rendez-vous pour passer une mammographie avec son radiologue, c'est bien, c'est complaisant, c'est comme ça. Le passer dans le cadre d'une invitation, on est mouliné, c'est pas notre culture. Il y a juste une différence, c'est que on est mouliné, mais on est mieux mouliné. Voilà, c'est tout. Donc c'est une culture très française, je dirais même méditerranéenne. Les pays nordiques, eux, on franchit le pas depuis longtemps. On est très individuel. Oui. En descendant, le taux de participation diminue. Je n'irai pas dans les pays au sud de chez nous, l'Italie, l'Espagne, où c'est quasiment une catastrophe. Mais bon, c'est culturel et il faut que ça change un peu. Je pense que ce n'est pas parce que c'est institutionnel ou c'est étatisé que c'est moins bon. À un moment, stop. L'éducation nationale, c'est pas mauvais non plus. Hein. Que ce soit privé, public, ça marche. Bon. Donc voilà. Je vais passer la parole à qui maintenant? Ahmed. Bon, alors Ahmed, il va vous montrer comment tout cela se passe, pour vous rassurer surtout, je pense.
Bonsoir à tous. Alors, je voulais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir convié à cette réunion d'information. Donc, je suis radiologue libéral à Châtellerault, je suis installé en ville et j'ai aussi une vacation d'attaché au CHU de Poitiers, une après-midi par semaine. Donc, je passerai un peu vite sur les statistiques qui ont été évoquées par M. Coste. Donc, le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité prématurée des femmes. On assiste à une stabilité des décès durant les 20 dernières années, malgré un doublement de l'incidence. Et cela est dû à, d'une part, au surdiagnostic, à la promotion de dépistage individuel par le dépistage organisé, et à l'amélioration thérapeutique des filières de soins qui respectent les référentiels professionnels qui sont mis en place par les réseaux d'oncologie. Alors, durant les on va dire 4 dernières années, il y a quand même une réduction de l'incidence qui est passée de 4,3 en 2004-2005 à 3,3 en 2005-2006. Ce sont des données récentes. On peut attribuer cette réduction de l'incidence au rôle des THS qui ont été prescrits... traitement hormonal substitutif, qui sont moins prescrits en France depuis 2003. Alors, le but du dépistage, comme l'a évoqué M. Tourani, c'est vraiment de dépister le cancer du sein à un stade très, très précoce pour mieux le guérir. Voilà, tout simplement. Vraiment, le message est très simple. Donc, voici une cellule normale. Alors, au stade débutant, ce qu'on appelle in situ, la cellule cancéreuse ne dépasse pas cette ligne bleue qui s'appelle la membrane basale. C'est vraiment une barrière qui protège l'organe en question. Et ici, c'est le sein. L'étape d'après, c'est cette barrière qui tombe, qui est la membrane basale. Et donc, à ce moment-là, le cancer est dit infiltrant, contre in situ pour la première étape. Et puis la dernière phase, c'est quand les cellules cancéreuses atteignent d'autres organes, et là, le cancer est dit métastatique. Donc, bien évidemment, le rôle du radiologue, c'est de détecter un cancer à un stade très précoce. Alors, on va voir maintenant les moyens de dépistage. Alors, il y a tout d'abord l'examen clinique, qui est donc adressé à une population entre 50 et 74 ans. Alors, on commence par l'inspection et la palpation des seins, et plus particulièrement des régions qui sont un peu d'accès difficile à mammographie, à savoir la région axillaire, sous les bras, la région interne, ici en parasternale, c'est un peu difficile à voir aux mammographies, et puis ce qu'on appelle le sillon sous-mammaire, c'est-à-dire la partie inférieure du sein. Alors, on estime à 0,6% de cancers occultes radiographiquement, qui peuvent échapper à la mammographie, donc d'où l'intérêt vraiment de l'examen clinique de la patiente. Alors, vient ensuite la mammographie. Donc, la mammographie se présente comme une machine. La patiente se met debout. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut faire la mammographie assis pour des patientes qui ne peuvent pas se mettre debout. Ça, c'est faisable aussi, parce que le statif s'abaisse. Ça, ce sont les pédales que la manip utilise pour monter, incliner le statif et puis assurer la compression nécessaire pour que le sein soit bien étalé et bien examiné. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il y a des patientes qu'on a du mal à installer, qui ne se laissent pas faire, donc qui s'enraidissent un peu. Donc, c'est vrai que j'invite les femmes à bien collaborer avec la manipulatrice radio ou le manip, généralement c'est des manipulatrices, c'est des femmes, pour bien vraiment, pour que la mammographie soit réalisée dans des conditions techniques optimum pour améliorer son interprétation. Alors, la mammographie a une sensibilité qui est comprise entre 68 à 88% selon la composition du sein. On va voir après les différentes compositions mammaires. La sensibilité étant la capacité de la mammographie à détecter une anomalie. Alors, quand on dit anomalie, ça ne veut pas forcément dire cancer. Hein, donc, ça, on va y revenir après. Donc, la sensibilité, c'est ça. Hein, c'est la capacité de cette technique à détecter une anomalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sensibilité est améliorée par la seconde lecture, ce que le docteur Coste vous a dit auparavant. Donc, on l'améliore entre 6 à 8%. Et là, dans la Vienne, je crois que c'était 6,4%, je crois, c'est ça. La spécificité de la mammographie, c'est-à-dire, elle est très bonne, elle est entre 80 et 90%. C'est-à-dire c'est la capacité de la mammographie de dire que les anomalies qu'on voit sur la mammographie, que les anomalies sont des cancers. Donc ça, c'est le côté spécifique de la mammographie. Alors, il y a malheureusement cette spécificité baisse un peu en cas de scindance. Je vous montrerai des cas pratiques tout à l'heure. Alors, ça pose le problème donc, de l'efficacité de la technique qu'on peut évaluer par le taux de rappel. Le taux de rappel étant le nombre de mammographies positives à la première lecture, à la seconde lecture. Alors, encore une fois, une mammographie positive ne veut pas dire forcément qu'il y a un cancer. Hein. Ça, c'est très important. On peut aussi évaluer cette spécificité par le taux de biopsie qu'un radiologue pratique et par la valeur prédictive positive. Alors ça, c'est un terme un peu statistique, mais qui veut dire tout simplement quel est le nombre de cancers qu'on va trouver quand on fait une biopsie. Voilà. Voilà. Et donc ça met en jeu, c'est pas que ça met en jeu, mais ça implique un petit peu la compétence du radiologue. C'est-à-dire un bon radiologue, il doit avoir une bonne valeur prédictive positive quand il fait des biopsies. Voilà. Et puis ça a aussi un impact financier sur la société et psychologique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une femme à qui on trouve une anomalie, ça ne veut pas dire forcément cancer, mais la patiente va forcément penser au pire. Donc ça a forcément un impact psychologique parce que on va soit la surveiller de façon régulière, on va après détailler les rythmes de surveillance, soit on va lui proposer une biopsie qui ne montrera pas forcément qu'il y a un cancer. Voilà, donc ça c'est un peu l'impact psychologique que ça implique dans les seins qui sont difficilement interprétables. Alors la mammographie est soumise à un contrôle obligatoire des installations. Alors il faut savoir que tous les matins, les manipulatrices, avant de commencer la vacation de mammographie, on fait des tests sur un fantôme. C'est-à-dire tous les matins, on recalibre entre parenthèses la machine pour qu'elle soit apte. On vérifie si la machine est apte à faire des mammographies ou pas. Ça, c'est la première chose. Donc de façon quotidienne, hein, tous les jours. Et à la fin de semaine, il y a une courbe qu'on fait pour être sûr qu'on est dans les recommandations nationales. De façon biannuelle, il y a une visite par le constructeur, quel que soit le constructeur de la machine, parce qu'il y en a plusieurs, on ne va pas les citer. Ils passent deux fois par an pour vérifier si leur matériel est conforme, toujours en normes. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle interne. Et puis il y a un contrôle externe, c'est-à-dire des entreprises qui sont indépendantes du cabinet de radiologie, qui sont agréées par l'AFSAPS, par l'Agence française de sécurité sanitaire, c'est ça, voilà. Voilà, exactement. Et donc, qui sont accréditées par l'AFSAPS et qui viennent contrôler de façon biannuelle aussi, une fois tous les 6 mois, nos installations et nous dire si on est conforme ou pas. Et le cas contraire, on doit pallier aux problèmes qui existent. Donc, il y a vraiment un contrôle très strict. Il y a aussi une formation des intervenants, que ce soit pour les radiologues premier lecteur L1 ou deuxième lecteur qu'on va appeler L2. Et puis, il y a une formation aussi spécifique pour les manipulatrices. Toutes les manips, tous les radiologues sont formés à la mammographie de dépistage. Et puis, après, donc, ces procédures sont évaluées. C'est-à-dire, on ne fait pas juste des mesures comme ça et puis on les met dans un coin. Non, on les revoit pour savoir si on est bon ou pas. Alors, à l'issue de la mammographie, vous allez voir dans les conclusions, le radiologue va classer sa mammographie selon une classification qu'on appelle ACR, de l'American College of Radiology. C'est une classification américaine, ACR, qui est une classification statistique, qui est encore basée sur la valeur prédictive positive. Donc, elle est dite ACR1 quand la mammographie est normale, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. ACR2 quand il y a une anomalie bénigne. ACR3, c'est une anomalie qui est probablement bénigne, mais par contre, il faut la surveiller. Alors, la surveillance est très standardisée. Tout le monde la connaît, c'est écrit partout dans les recommandations. Pour les masses, que ça soit vu à l'écho ou à la mammographie, c'est d'abord à 4 mois, à 12 mois, et puis à 24 mois, à 2 ans. Si une anomalie est stable sur 2 ans, on la considère comme bénigne. Voilà. Si par contre ça bouge au bout de 4 mois, là on va la classer soit en 4 ou en 5 et on va proposer une biopsie. Alors pour les, donc ça c'est pour les masses, qu'elles soient vues soit à la mammo ou à l'écho. Et puis, je vais vous montrer des exemples de masses après. Et puis pour les microcalcifications qu'on voit qu'à la mammographie, là la surveillance est à 6 mois, 12 mois et 24 mois. Donc ça c'est pour les ACR3. Alors quand le radiologue classe une anomalie ACR4, donc là ça veut dire qu'elle est suspecte, et là ça veut dire qu'il faut aller à la biopsie. Il faut aller à la biopsie pour être sûr de ce qu'on avance et pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans, pour orienter après la patiente vers un traitement adéquat. Et puis l'ACR5 aussi c'est une anomalie qui est très suspecte, et à ce moment-là on fait aussi une biopsie pour bien... une biopsie c'est un prélèvement, on va y venir après. Pour analyser l'anomalie, pour pouvoir orienter la patiente vers les thérapeutes. Alors, on réalise au minimum 4 incidences, je dis bien minimum. Donc, 2 incidences de face, 2 incidences obliques, qu'on dispose sur un mammoscope qui est une interface qui va nous permettre de lire la mammographie de la façon suivante. Donc, on met la droite, la gauche. Ça, c'est les 2 incidences de face. Et ça, c'est les incidences obliques. Ça nous permet une étude comparative droite-gauche. Alors, quand on dit minimum 4 incidences, c'est-à-dire que le radiologue peut vous demander de faire soit un cliché localisé, c'est-à-dire une partie du sein qui lui paraît un peu anormale ou il ne comprend pas bien ce qui se passe, il peut demander un cliché localisé. Il peut faire un agrandissement géométrique, il peut faire un profil, il peut faire un déroulé externe. Bon, il y a quelques incidences complémentaires qu'on peut réaliser en plus. Alors encore une fois, quand le radiologue vous demande de faire une incidence complémentaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose de grave. Ça peut être tout simplement une difficulté de lire une partie du sein, donc il a besoin d'un complément pour mieux interpréter votre mammographie. Donc j'insiste là-dessus aussi. Alors voilà, maintenant on va arriver aux différents seins. Alors, globalement, il y a ce qu'on a, on distingue deux types de seins. En fait, il y en a 4, mais pour simplifier, il y a les seins graisseux, qu'on appelle nous radiotransparents. Là, vous voyez, le creux axillaire est là, c'est-à-dire sous le bras est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le sillon sous-mammaire. Vous voyez que la glande est claire. Il y a quelques fibres glandulaires ici, le mamelon est là. Et puis, s'il y a vraiment une anomalie, là, on n'aura pas beaucoup de mal à la visualiser. Voilà, pour la même patiente, les incidences de face, là on voit vraiment que ce sont des seins graisseux, faciles à lire, qui ne posent pas de problème en pratique. Contrairement à ce genre de seins qu'on appelle nous denses, c'est-à-dire qu'il y a plus de fibres glandulaires que de graisse. Vous voyez la graisse, ce qui est en noir, ça se limite à cette partie-là, il y a un petit peu là. Et tout ce que vous voyez là en blanc, tout ça c'est des fibres glandulaires, hein, c'est la glande mammaire à proprement parler. Donc, vous voyez déjà la difficulté de lecture et d'interprétation entre les seins denses et puis des seins graisseux. Hein, voyez. Ça, c'est la même patiente avec des incidences de face. Alors, voici quelques exemples. Voici là l'exemple d'une masse dans un sein graisseux. Donc, vous voyez que là, on n'a pas eu de difficulté à détecter cette anomalie, d'autant plus qu'il y a une rétraction du mamelon. Alors, on peut aussi voir ce qu'on appelle des asymétries de densité pour lesquelles le radiologue peut vous demander une incidence complémentaire. C'est-à-dire là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cliché localisé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va étaler le sein sur cette région-là. Et parfois, ça nous permet d'étaler le sein. Et à ce moment-là, cette image s'explique juste par le fait qu'il y a une interposition de fibres glandulaires. Donc, il faut savoir qu'une radiographie standard, c'est une radiographie en projection. C'est pas comme le scanner où c'est des images en coupe. C'est-à-dire on projette toute la masse du sein qu'on va comprimer par la palette du statif et qu'on va projeter sur une image. Donc, il y a vraiment, il y a en moyenne 5 cm du sein qui sont sur une image. Donc, parfois, on a des interpositions de fibres glandulaires qui peuvent donner ce qu'on appelle une asymétrie de densité. Alors parfois, il y a aussi ce qu'on appelle une désorganisation architecturale, comme c'est le cas ici. Et là aussi, on peut demander un cliché localisé. Alors, les désorganisations architecturales, ce n'est pas forcément quelque chose de grave aussi. Mais bon, on est obligé de faire un complément parce qu'il suffit parfois que la dame ait eu un choc, un hématome qui peut donner ce genre d'image. Donc, ce n'est pas forcément inquiétant. Mais bon, on est obligé aussi de s'en assurer et de vérifier que cette des organisations architecturales disparaissent sur le cliché localisé. Alors, l'autre entité sémiologique, ce sont les microcalcifications. Alors, il y a plusieurs sortes de microcalcifications, encore une fois. Il y a des microcalcifications bénignes et des microcalcifications malignes. Là, c'est un cas de, plutôt de microcalcifications malignes, qui sont, vous voyez, qui sont nombreuses. Alors, les microcalcifications, ce sont ces petits points blancs qu'on voit ici. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les microcalcifications. Alors là, ici, ils sont faciles à voir, mais je vais vous montrer d'autres cas où c'est un peu moins facile. Les voici sur un cliché agrandi, mais de façon géométrique. Vous voyez, tout ça, c'est des microcalcifications. Alors, donc là, vous voyez que c'est un cas beaucoup simple. Là, c'est un cas un peu plus dur, en fait. Là, c'était dans le cadre du suivi d'une patiente qui est déjà opérée d'un sein droit. Voilà, ça, c'est l'oblique droit. Donc là, on voit la cicatrice. Ça, c'est le clip chirurgical du chirurgien. Alors, on devine... Bah, peut-être pas sur l'oblique, mais voilà, là on devine des microcalcifications, mais on n'en est pas sûr. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un cliché agrandi. Et là on retrouve effectivement des petites microcalcifications ici. Alors, un petit historique sur le dépistage organisé. Donc il faut savoir qu'il a commencé sur des sites expérimentaux en 89, qu'il s'est généralisé en 2004. Et que la date la plus importante, c'est la date où il y a eu cet ACBUS, cet accord de bon usage de soins qui est édité par l'HAS, la haute autorité de santé, qui a établi un cahier des charges bien strict que je vous ai détaillé au début. Et donc, il y a vraiment uniformisé la pratique de la mammographie de façon stricte pour tout le monde sur le plan national. Et ça, c'était vraiment une très, très bonne chose. Parce que c'est vrai qu'il y avait des discordances de pratiques selon les régions. Et puis la numérisation a été autorisée en 2008. Avant, on faisait que de l'analogique. Alors, l'intérêt de la mammo numérique, c'est l'archivage et les télétransmissions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'oriente vers le tout numérique en mammographie, c'est-à-dire qu'il y aura prochainement, dans les années à venir, qu'il n'y aura plus de films. C'est-à-dire que la patiente va faire sa mammographie dans un cabinet de radiologie, dans un service hospitalier agréé ou des choses comme ça. Et sa mammographie va partir directement au centre de gestion qui va lire sa mammographie et qui va lire par le second lecteur sa mammographie. Donc tout ça, ça sera de façon numérique. Je suis en retard, il faut que je me dépêche. Voilà, ça permet de modifier l'image acquise sans réexposition, c'est-à-dire ça permet de zoomer ou de contraster sans refaire de clichés supplémentaires. Et puis ça réduit aussi l'irradiation. Et puis aussi, grâce à la mammo numérique, on a des logiciels d'aide à la détection. Alors, les indicateurs du dépistage, bien sûr, le but essentiel, comme on l'a dit, c'était la diminution du taux de mortalité par cancer du sein. Qui est lié d'une part au dépistage, ça c'est vrai, mais aussi au progrès thérapeutique, ce qu'il ne faut pas négliger. Les indicateurs d'impact, c'est le taux de participation, on en a parlé. Les indicateurs de qualité, ce sont le taux de rappel et les valeurs prédictives positives de la biopsie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Et puis les indicateurs d'efficacité, ce sont les facteurs histopronostiques des tumeurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on découvre des tumeurs qui sont les moins graves et les moins agressives possibles. Et puis l'indicateur d'organisation, c'est le délai de dépistage. C'est le délai entre le dépistage et le résultat, les délais entre le résultat et le début de traitement, et les délais entre deux mammographies. Tout ça, ce sont des indicateurs d'organisation. Alors, rapidement, je vais vous montrer les recommandations européennes concernant le dépistage. Donc, il faut que le taux de participation soit supérieur à 70% au premier tour, c'est-à-dire la prévalence, et au second tour, ce qu'on appelle l'incidence. Il faut que le taux de rappel soit inférieur à 7%. Je rappelle encore une fois que le taux de rappel, c'est le taux de mammographie positive par le L1 et le L2. Alors, encore une fois, c'est positif, hein, ça ne veut pas dire forcément cancer. Il faut que le taux de biopsie soit très faible, inférieur à 1,5. Il faut que la valeur prédictive positive des biopsies soit supérieure à 50%. Il faut que le taux de cancer détecté soit supérieur à 5 pour 1000. Il faut que le taux de carcinome caudal in situ, c'est-à-dire les premiers stades, soient entre 10 et 20%. faut que le taux de cancer invasif de moins de 10 mm soit supérieur ou égal à 20%. Il faut que le taux de cancer invasif N-, c'est-à-dire sans atteinte ganglionnaire, qui doit approcher les 70%. Alors, je vous rassure, on est vraiment dans les recommandations européennes sur le plan national, à deux exceptions près. Ce sont le taux de participation qui est encore faible, qui est à peu près de 50%, et sur le taux de rappel qui est encore un petit peu élevé. C'est-à-dire on a tendance à trop positiver les mammographies, voilà, sans pour autant qu'il y ait forcément un cancer derrière. Mais pour tout le reste, c'est vert. Hein. Voilà, ça c'est juste un schéma pour vous expliquer que pour atteindre la finalité du dépistage, c'est cette réduction de la mortalité de 35%, il faut la barre, le seuil de 70%. Là, vous voyez, on est plus aux alentours de 50%. Donc c'est très très important. Alors le deuxième moyen de dépistage, en plus de l'examen clinique et la mammographie, c'est l'échographie. Alors elle ne peut jamais être proposée seule dans le dépistage, parce qu'on voit parfois il y a des femmes qui viennent en nous disant « la mammographie ça fait très très mal, je ne veux pas de mammo, faites-moi juste une échographie ». C'est vraiment, on leur explique que ce n'est pas suffisant. Et s'il y a un seul examen à faire, c'est la mammographie et non pas l'échographie. Elle permet un gain additionnel de 4 pour 1000 pour les seins denses et pour les femmes à risque. Et c'est le radiologue qui décidera, qui jugera nécessaire ou pas de réaliser une échographie. Alors je vais peut-être passer vite sur la radio-écho-anatomie. En fait, on retrouve à peu près la même chose. C'est juste pour vous dire que la graisse qui est là, c'est ce qu'on voit ici en noir en mammographie. Ça correspond à cette partie-là en écho. La peau étant là, c'est cette partie grise. Cette partie blanche qu'on voit ici à l'échographie, c'est la glande mammaire. C'est ce qu'on voit ici à la mammographie. Et ce qu'on retrouve ici sur une coupe anatomique. Alors, parfois, on peut s'aider donc de l'échographie dans les cas difficiles. Là, regardez, il y a une asymétrie de densité. Vous voyez, il y a cette image-là qu'on n'a pas ici. Qu'on retrouve ici, vous voyez, la même anomalie qu'on voyait sur l'oblique, là. On la retrouve ici et qui n'existe pas à droite. Donc là, l'œil a été attiré par cette anomalie. Qu'est-ce qu'on fait en plus? Donc on a fait une échographie qui montre une petite lésion qui est infrasentimétrique. Voilà, parfois ça nous permet de confirmer une rupture de prothèse. Voilà. Alors, donc on arrive aux biopsies. Alors pourquoi on fait des biopsies? C'est pour tout simplement éviter la chirurgie bénigne. Ça ne sert à rien d'opérer un sein quand il y a une anomalie bénigne qui ne nécessite pas d'intervention. Et puis, ça permet de faire le diagnostic de cancer et de planifier le traitement médical et chirurgical. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il y a deux façons de faire des biopsies. Soit sous échographie, à ce moment-là, c'est la main du radiologue qui décidera de l'endroit où il faut aller. Donc, on prend la sonde d'une main, l'aiguille à biopsier de l'autre main, et puis on se dirige sous contrôle de l'échographie vers la lésion à prélever. Soit par stéréotaxie, c'est-à-dire là c'est la machine, c'est-à-dire on va dire à la machine d'aller à cet endroit bien précis, avec les coordonnées de la lésion dans les trois plans de l'espace, et c'est la machine qui va y aller, sous contrôle du radiologue bien sûr, mais ce n'est pas la main du radiologue directement. C'est pour ça qu'on l'appelle stéréotaxie. Alors donc vous allez entendre soit microbiopsie ou macrobiopsie sous contrôle écho ou sous contrôle stéréo. Alors pourquoi micro ou macro? C'est une histoire de taille d'aiguille. Voilà, les microbiopsies, généralement, c'est des 14 de gauge, et les macrobiopsies, c'est en dessous du 14 de gauge. Je vais vous montrer ce que c'est que des gauges. Voilà, donc les aiguilles qu'on utilise en échographie, c'est généralement ça, c'est du 14 de gauge, et voici les volumes correspondants. Et les macrobiopsies, que ce soit sous écho ou sous mammographie, sous stéréotaxie, c'est soit du 11 gauge ou du 8 gauge. Voici un exemple d'une microbiopsie éco-guidée. C'est la lésion qu'on a vue tout à l'heure à l'écho. Vous voyez, la lésion est là. Donc, c'est le radiologue qui met en place l'aiguille qu'on voit là, qui va traverser la lésion, qui va prélever un petit échantillon. Alors, au passage, j'aimerais juste insister sur le fait que ces prélèvements sont sécurisés dans la mesure où, quand vous voyez, elle est où la flèche ? Il y a cette partie-là qui s'appelle donc la chambre de prélèvement, c'est-à-dire une fois que le prélèvement du sein est fait, cette chambre de prélèvement se ferme. C'est-à-dire il y a une partie de l'aiguille qui va, il y a une autre partie de l'aiguille qu'on appelle coaxiale qui va venir protéger cette chambre de prélèvement Et donc, quand on va retirer l'aiguille, l'échantillon prélevé est protégé. C'est-à-dire, je veux dire par là tout simplement qu'il n'y a pas de risque d'ensemencement. C'est que les, il n'y a pas de risque que les cellules partent ailleurs. Voici là un exemple de macrobiopsie stéréoguidée. Donc la patiente est allongée sur le ventre. Il y a une anesthésie locale, bien sûr, qui est faite. Et ça, c'est la machine à qui on donne les coordonnées de la lésion dans les trois plans de l'espace et qui va nous guider pour aller prélever les lésions. Alors, il faut savoir qu'il y a 90% des nodules qui sont prélevés sous échographie, environ 10% sous stéréotaxis. Dans la majorité des cas, c'est sous écho. Voilà. Voici quelques exemples de macrobiopsies qui sont généralement des microcalcifications. Alors, dans le dépistage, il y a aussi l'IRM. Ça, c'est le dernier outil qu'on a en notre possession. Et ça s'adresse uniquement aux femmes à haut risque génétique. Et à ce moment-là, on réalise une IRM une fois par an. Alors, ce sont les femmes qui présentent une mutation BRCA1-2. Des femmes qui ne sont pas testées, mais apparentées au premier degré dans une famille mutée. Ce sont des patientes qui ont un risque relatif supérieur à 20 à 25%, et ce sont des patientes qui ont un antécédent de radiothérapie thoracique dans l'enfance, et puis des syndromes génétiques bien particuliers comme le Lifromeny. Donc vous voyez, ce sont vraiment une population de femmes très ciblées et très à haut risque. Voici un exemple de mammographie. Donc on obtient des images comme ça. Ça, c'est la même coupe dans les trois plans de l'espace. Donc on peut faire des courbes de rehaussement. Voilà. Donc, alors en pratique, et pour finir, donc la patiente va passer sa mammographie, 4 incidences plus ou moins échographie. Donc elle sera soit classée par le premier lecteur, deuxième lecteur, 1, 2, à ce moment-là elle sera réinvitée à repasser une mammo dans 2 ans. Elle sera classée soit ACR3 par le L1 ou L2, à ce moment-là, on appliquera le rythme de surveillance qu'on a dit tout à l'heure. ACR4 ou 5, donc là, biopsie, traitement. Voilà. Donc en conclusion, la mammographie, c'est une technique évaluée pour réduire la mortalité par le dépistage. L'échographie a un rôle additionnel chez les femmes à risque intermédiaire, chez les femmes qui ont des seins denses et hétérogènes. Et puis l'IRM est vraiment destinée à une population sélectionnée qui sont les femmes à haut risque. Voilà, je vous remercie.
Bien. Ahmed, je te remercie. Vous avez pu voir que c'est complexe, en fait. C'est complexe. Vous avez compris qu'il y a des examens qui sont faciles sur des seins qui sont graisseux, entre guillemets, et puis des interprétations beaucoup plus difficiles sur des seins denses. D'où le problème de la tranche d'âge, il faut être clair là-dessus. Et donc vous comprenez aussi, dans le cadre des dépistages organisés, l'intérêt de la deuxième lecture. D'accord ? Donc si vous décidez de rentrer dans le cadre d'un dépistage, il y a une sécurité supplémentaire, vous avez vu, tout est codifié, et transmettez le message, même si c'est moins plaisant de recevoir une convocation ou une invitation plutôt que de prendre son téléphone et gentiment téléphoner à son radiologue. Il y a une sécurité supplémentaire. C'est les mêmes personnes qui font les deux. Mais dans un cas, ils vont appliquer des règles sur lesquelles ils se sont engagés. Dans l'autre cas, ils feront une mammographie tout à fait standard. Après, le choix, il faut le faire. Je pense qu'il y a une sécurité qui est même supérieure. Quand on voit les images, les difficultés d'interprétation, il vaut mieux confier, disons, ces images que l'on vient de faire à deux radiologues plutôt qu'à un radiologue. Bien, maintenant, on va laisser parler Stéphanie qui sort du dépistage, là. Et donc, on ne va culpabiliser personne, mais on ne va pas dire s'il n'y a pas de dépistage, où on va. Non, je pense que de toute façon, même avec le dépistage, on ne va pas tout de même régler le problème de 100% de la population sur le cancer du sein. Et même, il faut le savoir aussi, et c'est là où c'est important, le dépistage n'évite pas le cancer du sein. Il faut être bien clair là-dessus. Il peut en réduire les conséquences au niveau du traitement, améliorer la survie, mais en 2 ans, c'est vrai qu'on peut passer entre des dépistages à un cancer. C'est évident, ce n'est pas de l'individualité qu'on en parle, c'est un problème de santé publique.
Donc je me présente, je suis le docteur Stéphanie Chies-Valero et je travaille donc dans le service du professeur Tourani et en charge des patientes suivies pour un cancer du sein. Alors, si tant est que ça marche. Non mais je vais les passer, ça y est, ça marche. Sauf que, attendez, je vais me les passer moi-même. Voilà. Donc, comme l'a dit le docteur Moumou, effectivement, le premier temps de la prise en charge et le temps indispensable pour définir qu'il s'agit d'un cancer du sein, c'est la microbiopsie. À partir de cette étape, on va ainsi pouvoir définir les différents traitements qui vont être proposés à la patiente. Le premier d'entre eux va être la chirurgie. On voit sur ce dessin une coupe d'une glande mammaire avec en son sein une lésion cancéreuse et on se rend compte que notre glande mammaire se draine vers différents territoires ganglionnaires, qu'il s'agisse des ganglions sous l'aisselle, sous axillaire, ceux au-dessus de la clavicule, les susclaviculaires ou les mammaires internes. Physiologiquement, la glande mammaire se draine vers l'un ou l'autre de ces territoires et selon la localisation de la tumeur, elle pourra se drainer vers l'un ou l'autre de ces territoires ganglionnaires. En sachant que la chirurgie qui va être réalisée dans le cadre de la prise en charge des cancers du sein comportera bien évidemment une chirurgie du sein, mais aussi une chirurgie ganglionnaire qui ne pourra être que sous-axillaire pour un problème d'accessibilité des autres territoires ganglionnaires. On verra qu'ils seront alors pris en charge par une autre technique thérapeutique. La chirurgie du cancer du sein, elle va être fonction de la lésion, en particulier de sa taille par rapport au volume mammaire. Donc effectivement, le dépistage permet de diagnostiquer des lésions à un stade précoce et ceci va ainsi influencer la prise en charge chirurgicale. Mais ça va aussi dépendre de la localisation de la tumeur. Et s'agit-il d'une lésion unique ou d'une lésion multiple ? Dans le cas d'une lésion unique, de petite taille, placée en dehors du mamelon, il pourra être pratiqué une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire qu'au terme de l'opération, la patiente aura gardé le galbe de son sein. C'est ce qu'on appelle la mastectomie partielle. Parfois, hélas, on ne peut pas conserver le galbe du sein et on doit se résoudre à réaliser une mastectomie complète. C'est le cas de tumeurs de taille relativement importante ou s'il s'agit de lésions multiples ou de lésions placées juste en arrière du mamelon. La mastectomie complète comporte l'ablation de la glande mammaire mais aussi de l'aréole. Je tiens à préciser une chose parce que la remarque nous est souvent faite en consultation. Ce n'est hélas pas parce que l'on a dû ôter le sein à une patiente que l'on pourra s'en arrêter là dans sa prise en charge complémentaire. Peut-être on pourra surseoir à de la radiothérapie, mais on aura peut-être hélas besoin d'avoir recours à des traitements type chimio ou hormonothérapie et on verra tout à l'heure pourquoi. On a parlé là de la chirurgie mammaire, mais à partir du moment où l'on sait qu'on va prendre en charge un cancer du sein, il y a associé à cette chirurgie de la glande mammaire une chirurgie des territoires ganglionnaires ou du territoire ganglionnaire accessible, c'est-à-dire le sous-axillaire. Selon la taille de la lésion, selon son caractère unique ou multiple, la patiente a-t-elle antérieurement bénéficié de chirurgie au niveau du sein que l'on va devoir opérer ? Selon ces différents critères, on va pouvoir proposer deux types de chirurgie au niveau ganglionnaire. S'il s'agit en fait d'une tumeur de plus de 2 cm ou de lésions multiples, ou si la patiente a déjà été opérée, on devra hélas se résoudre à réaliser un curage ganglionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'aisselle, il y aura un évidement du creux axillaire, avec dans la mesure du possible l'obtention d'au moins 10 ganglions pour une analyse par nos collègues anatomopathologistes. Et la complication de ce type de chirurgie est le risque de lymphœdème ou gros bras. Donc, plus on dépiste une lésion à un stade précoce, plus on peut avoir recours à une autre technique chirurgicale dont les séquelles sont beaucoup moins importantes. C'est ce qu'on appelle le prélèvement du ganglion sentinelle. Toute femme qui présente une lésion de moins de 2 cm unique, qui n'a jamais été opérée au niveau de son sein, peut avoir accès à ce type de chirurgie pour explorer les ganglions vers lesquels peuvent s'être drainées des cellules cancéreuses. Alors, en quelques mots, comment ça fonctionne, la technique du ganglion sentinelle ? Juste avant l'intervention et au début de cette dernière, il va être injecté dans un service de médecine nucléaire un isotope radioactif au niveau de la lésion cancéreuse, palpable, éventuellement, quand elle n'est pas palpable, même d'ailleurs pas éventuellement, ça doit être le cas dans toutes les chirurgies, repérées par nos collègues radiologues avant l'intervention chirurgicale. Donc en médecine nucléaire, on injecte un isotope radioactif. Et puis, en début d'intervention, le chirurgien injecte un bleu patent. À partir de là, il y a un massage de la glande mammaire qui est effectué. Et pendant le temps opératoire, le chirurgien va faire une ouverture cutanée en regard du territoire ganglionnaire axillaire. Il va regarder, il va repérer le ganglion qui est coloré en bleu, vérifier avec une sonde qu'il y a bien au sein de ce ganglion une radioactivité. À partir de ce moment-là, ce ganglion est dit le ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le premier ganglion qui peut être touché par des cellules cancéreuses avant les autres ganglions situés un petit peu plus loin. À partir de cette étape-là, le chirurgien enlève le ganglion, le transmet à l'anatomopathologiste qui se trouve dans le bloc opératoire, qui fait une lecture rapide de ce ganglion et qui dit « il y a au sein de ce ganglion des cellules cancéreuses ou il n'y en a pas ». S'il n'y en a pas, on s'arrête là. L'intervention au niveau ganglionnaire ne va pas plus loin. Il n'y a pas de risque de lymphœdème. Il y a une mobilisation du bras qui est beaucoup plus rapide en post-opératoire. Si l'anatomopathologiste dit qu'il y a une atteinte du ganglion par des cellules cancéreuses, à ce moment-là, le chirurgien complète son geste pour aller enlever le maximum de ganglions visibles sous les selles pour, au maximum, ramener des cellules cancéreuses qui pourraient être présentes à ce niveau-là. Juste un petit bémol, il arrive, c'est rare, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver toutefois, qu'en péropératoire, pendant l'intervention, il soit dit que le ganglion ne contient pas de cellules cancéreuses, mais après une analyse définitive au laboratoire, l'anatomopathologiste dit finalement, il y a bien quand même quelques cellules isolées, et là, la patiente doit avoir une seconde intervention pour réaliser le curage. C'est rare, et ça doit, je pense, ne pas faire conduire les patientes à refuser cette technique du ganglion sentinelle parce que pour leur vécu ultérieur, c'est vraiment très important quand on peut la réaliser. On a vu l'étape de la microbiopsie, on sait que c'est un cancer. À partir de là, on l'opère parce que c'est, dans la très grande majorité des cas, la première étape thérapeutique. À partir de ce moment-là, la chirurgie nous permet d'obtenir des renseignements. Ces renseignements, ils vont être la taille de la tumeur, les ganglions, sont-ils touchés, ne le sont-ils pas ? Y a-t-il, au niveau de la cellule cancéreuse, des récepteurs aux hormones endogènes fabriquées que sont les œstrogènes et la progestérone ? Y a-t-il, au niveau de la membrane cellulaire, la présence en quantité trop importante d'un récepteur un petit peu particulier qu'on appelle le récepteur HER2 nœud ? Ces éléments vont être pris en compte, de même que l'âge de la patiente et la négativité de ce que l'on appelle le bilan d'extension, c'est-à-dire qu'on va avoir vérifié que notre patiente ne présente pas de métastase au niveau pulmonaire, hépatique et osseux par l'intermédiaire d'une radio pulmonaire, d'une écho-hépatique et d'une scintigraphie osseuse. À partir du moment où tous ces paramètres sont réunis, on va devoir décider d'une prise en charge pour notre patiente afin d'éviter qu'il y ait un jour une récidive et en particulier une récidive à distance. Cette décision, elle sera prise au cours de ce que l'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire au sein de laquelle siègent des radiologues, des anatomopathologistes, des chirurgiens, des oncologues médicaux et des radiothérapeutes. Et ensemble, on va prendre le cas de notre patiente et on va décider de la suite de la prise en charge. En effet, selon différents critères, on va pouvoir définir s'il existe un risque de récidive à distance, oui, non. Si ce risque de récidive à distance apparaît non présent ou très faible, La patiente bénéficiera alors d'un traitement loco-régional. La première étape a été réalisée, c'est la chirurgie. La deuxième étape sera la radiothérapie. Dans le cas où on pense qu'il peut y avoir chez cette patiente un risque de récidive à distance, par la taille de la lésion, par l'atteinte ganglionnaire, il sera bien évidemment proposé un traitement loco-régional auquel on associera un traitement général chimio et ou hormonothérapie. Quelques mots des différents termes que je viens d'énoncer, que ce soit la radio, la chimio ou l'hormonothérapie. Le premier d'entre eux, la radiothérapie, donc second traitement loco-régional. La radiothérapie a pour objectif d'empêcher la division de la cellule en créant des cassures au niveau de l'ADN, l'ADN étant en fait le cerveau de la cellule. Comment est-ce qu'on va casser cet ADN par l'intermédiaire de la radiothérapie? Eh bien, en exposant les cellules à des radiations ionisantes. Ainsi, l'ADN est cassé et la cellule n'arrive plus à se diviser, aboutissant ainsi à la mort cellulaire. Le principe de la radiothérapie, c'est d'exposer de manière régulière les cellules cancéreuses à ces ionisations, en sachant que les cellules cancéreuses n'ont pas un pouvoir de réparation rapide, à la différence des cellules saines, et donc elles seront beaucoup plus altérées, les cellules cancéreuses, par la radiothérapie, que les cellules saines. On ne débute pas une radiothérapie sans quelques étapes. La première d'entre elles est ce que l'on appelle le repérage. C'est une étape qui dure environ une trentaine de minutes. Par l'intermédiaire d'un scanner dosimétrique, en fait, on va regarder où nous allons devoir réaliser le traitement de radiothérapie et on va placer ce que l'on appelle des points de repérage externes, soit par l'intermédiaire de tatouages ou d'adhésifs. Ce scanner dosimétrique, il est fait, il est réalisé. Il permet d'aboutir à la deuxième étape qui s'appelle la dosimétrie. La dosimétrie, c'est en fait le travail du physicien validé par le médecin radiothérapeute. Et l'objectif de ce que l'on appelle la dosimétrie, c'est de définir le volume cible, l'endroit où l'on va devoir envoyer le maximum d'irradiation pour détruire au maximum d'éventuelles cellules cancéreuses toujours présentes malgré le geste du chirurgien. Bien entendu, on va devoir donner la dose optimale, mais en protégeant au maximum les tissus sains. Donc on va utiliser différents faisceaux de pénétration pour délivrer la radiothérapie. Ici, on retrouve les poumons, les clavicules, et là, on voit en fait le sein qui va être à traiter. Et le scanner dosimétrique va définir une balistique qui va démontrer que la tumeur se trouvait à ce niveau-là, a été réséquée, mais c'est quand même à ce niveau-là qu'il va falloir délivrer le maximum d'irradiation et un peu moins sur le reste de la glande mammaire et beaucoup moins sur les autres tissus. On voit là que quand c'est rouge, c'est là où l'on doit délivrer le maximum. Quand c'est bleu, c'est là où on va délivrer le minimum d'irradiation. Donc la dosimétrie est présentée en plusieurs coupes. Et ainsi, le radiothérapeute va définir le plan de traitement pour chacune de ses patientes. La dosimétrie est réalisée et à partir de là, le traitement va pouvoir commencer après ce qu'on appelle une séance de mise en place. Alors, il faut savoir que la radiothérapie, on l'a dit, est un traitement loco-régional qui va donc pouvoir traiter au niveau du sein, si le sein était conservé, avec ce qu'on appelle un surdosage, une intensification de l'irradiation au niveau du lit tumoral. Mais ce n'est pas parce que le sein a été enlevé qu'il n'y aura pas forcément de radiothérapie. Il pourra y en avoir une au niveau de la paroi thoracique quand certaines conditions le justifient. Et puis tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait avoir accès aux ganglions sous-axillaires par l'intermédiaire de nos collègues chirurgiens, mais qu'il est extrêmement difficile de pouvoir avoir une analyse des ganglions susclaviculaires et des ganglions de la chaîne mammaire interne. Eh bien, si l'on pense que ces ganglions peuvent être contaminés par des cellules cancéreuses, mais que l'on n'a pas pu les réséquer, eh bien, à ce moment-là, en radiothérapie, nos collègues vont pratiquer une irradiation au niveau de ces territoires ganglionnaires de manière à renforcer le traitement local et tenter d'éradiquer le maximum de cellules cancéreuses. Si le rythme de la radiothérapie est habituellement quotidien, il faut savoir qu'une personne plus fatiguée peut avoir une radiothérapie adaptée avec des séances hebdomadaires. Le nombre de séances est habituellement de 25 à 30. Il est défini en fonction du type de chirurgie, la taille de la lésion, l'atteinte ganglionnaire. Et c'est le radiothérapeute qui, à partir de tous ces éléments-là, va définir un plan de radiothérapie. On a parlé tout à l'heure que la radiothérapie, c'était en fait une irradiation des cellules. Il faut savoir que là, nous avons le noyau radioactif et que c'est par l'intermédiaire d'un accélérateur qu'elles sont transmises à la patiente et on ne place pas la radioactivité directement au sein de la patiente, à la différence de certains types de radiothérapie qu'on appelle écurithérapie. Donc juste, on n'est pas radioactif quand on est en cours de radiothérapie externe. On en a terminé des traitements locaux régionaux. En quelques mots, je vais tenter de vous présenter les deux traitements dits généraux que sont l'hormono et la chimiothérapie. On a vu tout à l'heure que la radiothérapie agissait au niveau de l'ADN, c'est-à-dire au niveau du cerveau de la cellule. Le principe de l'hormonothérapie, c'est en fait une anti-hormonothérapie. C'est-à-dire que sur certains types de cellules du cancer du sein, parce que tout cancer du sein ne présente pas des récepteurs hormonaux, donc sur certaines cellules du cancer du sein, il est vu par nos collègues anatomopathologistes au niveau de la membrane nucléaire, ce que l'on appelle des récepteurs hormonaux. C'est-à-dire que ces récepteurs, s'ils sont activés par la fixation d'une hormone endogène que l'on fabrique naturellement, que sont les œstrogènes et la progestérone, il est alors activé, et ce récepteur activé active le noyau, active l'ADN, et il y a la multiplication cellulaire, la division cellulaire qui se fait. Comment est-ce qu'on peut arriver à bloquer ce mécanisme d'activation, en fait ? Deux principes, soit on dit on agit par compétition, c'est-à-dire qu'on va empêcher la fixation de l'hormone, soit on va agir par soustraction, c'est-à-dire qu'on va diminuer le taux d'hormones endogènes circulant. Il faut savoir que l'hormonothérapie, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs, et qu'elle est adaptée au statut hormonal de chaque patiente que l'on est amené à prendre en charge. Juste un petit schéma pour se représenter ce que c'est que la soustraction, la compétition. Notre membrane nucléaire, c'est-à-dire la membrane du noyau de la cellule, se trouve là. Le récepteur est là. Je ne veux pas que mon récepteur soit activé parce que sinon il active la cellule et alors le mécanisme de division se produit. Soit par compétition, il y a un blocage et l'œstrogène endogène ne peut pas venir se fixer sur le récepteur. C'est le principe de ce que l'on appelle les anti-œstrogènes. Ou bien on décide qu'il faut diminuer ce taux d'œstrogène circulant. Dans ces cas-là, on bloque l'usine. On dit qu'on agit par soustraction. Qui fabrique les œstrogènes ? Lorsque notre patiente est réglée, c'est principalement les ovaires et il faut faire un blocage ovarien. Quand la patiente n'est plus réglée, elle continue tout de même de fabriquer des œstrogènes et de la progestérone par une cascade enzymatique dans l'organisme et entre autres une enzyme prépondérante pour fabriquer les œstrogènes et ce qu'on appelle l'aromatase. Et on a su fabriquer un médicament qui bloque cette enzyme. Donc le principe de l'hormonothérapie, c'est empêcher que le récepteur nucléaire ne soit activé, soit en bloquant la fixation, soit en diminuant au maximum l'agent qui vient se fixer et active le récepteur. Donc c'est surtout pas des hormones, l'hormonothérapie. On termine par le dernier traitement et celui qui le plus souvent, et ça là paraît légitime, fait particulièrement peur aux patientes, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Il faut savoir que la chimiothérapie est donc le second traitement général qui sera proposé aux patientes qui n'ont pas la possibilité d'avoir recours à une hormonothérapie, mais qui ont un cancer qui justifie d'associer au traitement loco-régional un traitement général pour diminuer au maximum le risque de récidive. Lorsqu'il y a la possibilité d'utiliser une hormonothérapie, la chimiothérapie pourrait être proposée en préambule à l'hormonothérapie s'il y a des critères que sont l'âge, l'atteinte ganglionnaire, la taille de la cellule, ce qu'on appelle l'index mitotique, c'est-à-dire la vitesse de multiplication cellulaire, mais aussi en tenant compte des antécédents de la patiente et de ses facteurs de comorbidité. Bref, à partir de tous ces éléments-là, on va dire, voilà, notre patiente, on peut lui proposer une hormonothérapie. Mais est-ce que rajouter une chimiothérapie va permettre à cette patiente d'améliorer la diminution du risque de récidive sans pour autant, bien entendu, gréver son état général? La chimiothérapie, quand on décide de la réaliser, elle s'administre sous la forme de ce que l'on appelle des protocoles. Protocoles qui sont bien entendu définis par des référentiels nationaux et internationaux. Il est hors de question que chacun fasse sa sauce dans son coin. Et en cela, les réunions de concertation pluridisciplinaires sont un peu des garde-fous pour que les bonnes pratiques soient bien respectées. Dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein, il faut savoir qu'il y a principalement deux familles de médicaments qui sont utilisés, les anthracyclines et les taxanes. Pareil, on tiendra compte du type de cellule, de l'atteinte ganglionnaire, de l'âge, des antécédents de la patiente pour dire on ne fait que l'un, on ne fait que l'autre, on fait les deux ensemble de manière séquentielle l'un après l'autre. Et puis, dans certains cas, on va utiliser ce qu'on appelle en fait un anti-HER2. C'est-à-dire que certaines patientes vont relever d'un traitement de chimiothérapie parce qu'il y a des éléments qui nous disent qu'il faut le faire pour diminuer le risque de récidive. Et on avait vu tout à l'heure dans la présentation qu'on demandait à nos collègues anatomopathologistes de nous dire si au niveau de la membrane cellulaire, il existait en quantité trop importante un récepteur qu'on appelle l'HER2 nœud. Toute patiente ne présente pas une surexpression de ce récepteur, mais en tous les cas, quand elle existe, il est maintenant clairement démontré qu'il y a indication à faire une chimiothérapie, mais qu'il faut faire un double blocage, à la fois en créant des cassures au niveau de l'ADN, mais aussi en empêchant l'activation de la cellule, puisque ce récepteur, lorsqu'il est activé, comme les récepteurs hormonaux, eh bien, il transmet un signal au noyau de la cellule et la cellule n'a qu'une envie, c'est se diviser. Donc, lorsqu'il existe une surexpression du récepteur HER2 nœud, il y aura indication à faire de la chimiothérapie et les patientes auront un traitement particulier associé qui s'appelle un anti-HER2 ou trastuzumab. Attendez, je recherche mon... Mince. Nous avons décidé que pour notre patiente, nous allions devoir réaliser une chimiothérapie. Dans le cadre de la prévention des risques de récidive, les chimiothérapies s'administrent par l'intermédiaire d'une perfusion, perfusion qu'on ne fait pas sur les veines des bras. Surtout, on l'évite lorsqu'il y a eu un curage ganglionnaire puisque seul un bras peut être utilisé. Et donc, on fait mettre en place par nos collègues anesthésistes un petit boîtier qu'on appelle une chambre implantable avec un cathéter raccordé. Et là, on part dans un gros vaisseau qui, lui, est tout à fait capable de recevoir les médicaments de chimiothérapie sans être endommagé. Une photo pour vous montrer qu'une chambre implantable, c'est quelque chose quand même qui est, entre guillemets, fragile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques d'infection. Donc, au moment où on l'utilise, au moment où l'on place la perfusion, l'infirmière, en fait, travaille de manière stérile avec un champ opératoire, des gants, une blouse, un masque et une charlotte. La chimiothérapie, c'est un traitement qui fait peur, surtout par les effets secondaires, en fait, qu'elle peut créer. Alors effectivement, dans la situation dont on parle ce soir, prévention du risque de récidive, on ne peut hélas pas éviter les risques d'alopécie. On perd les cheveux, mais aussi l'ensemble de la pilosité. C'est bien évidemment un effet secondaire réversible, mais qui est particulièrement difficile à affronter. Certains traitements peuvent entraîner des nausées et des vomissements, mais je me permets quand même de dire que ce n'est pas obligatoire et tout traitement de chimiothérapie n'en entraînera pas. Il peut y avoir des baisses transitoires de globules blancs avec une fragilité par rapport au risque infectieux, une fragilité au niveau des ongles et bien souvent, les patientes qui étaient encore réglées avant de démarrer un traitement de chimiothérapie, en fait, sont placées en ménopause précoce, en aménorrhée par le fait de nos traitements. On a vu tout à l'heure que l'infirmière était tout habillée au moment où elle plaçait la perfusion. On a là une photo d'une salle de traitement où en fait on voit qu'à partir du moment où la perfusion est mise en place, l'infirmière peut travailler en n'étant plus du tout de manière stérile. Si j'ai mis cette photo qui montre plusieurs personnes dans une même salle, c'est pour dire que si on prend en charge plusieurs femmes pour un cancer du sein, Aucune d'entre elles n'a la même maladie et surtout aucune d'entre elles ne va réagir de la même façon au traitement. Donc c'est à nous d'écouter nos patientes et c'est à nous d'adapter les traitements en fonction du ressenti de chacune d'entre elles et absolument pas le contraire, elles devant s'adapter à nous. Si on doit résumer tout ça parce que ça fait pas mal d'informations, on va dire que le dépistage permet de soulever un doute radiologique, que lorsqu'il y a doute, il faut qu'il y ait confirmation, et c'est le rôle de nos collègues radiologues par l'intermédiaire des microbiopsies. S'il y a confirmation d'un cancer du sein, il faut alors qu'il y ait une chirurgie qui soit effectuée au niveau du sein et au niveau des ganglions. Et à partir de là, on va définir s'il existe un risque de récidive à distance plus ou moins important et on définira s'il doit y avoir uniquement traitement loco-régional ou si l'on doit adjoindre un traitement par voie générale. Pour conclure, tout ça, c'est un travail d'équipe, en fait. Vous l'avez vu, nous sommes trois ce soir, mais en fait, nous sommes beaucoup plus nombreux à intervenir auprès des patientes. Et je dirais que dans l'équipe, le pilier, c'est la patiente et sa maladie, puisqu'en fait, il n'y a pas une patiente qui a la même maladie que sa voisine. Qui intervient autour de la patiente ? Au tout début, les radiologues par l'intermédiaire du dépistage dans la grande majorité des cas, nos collègues anatomopathologistes qui nous permettent de savoir qu'il s'agit bien d'un cancer, interviennent ensuite les thérapeutes que sont les chirurgiens, les oncologues médicaux et radiothérapeutes. Tout le monde se met autour d'une table et on ne fait pas chacun dans son coin ce qu'on a envie de faire. On suit des ABAC et c'est le principe de la réunion de concertation pluridisciplinaire où l'on va décider du traitement qui va être à proposer à notre patiente. Et juste pour terminer, on a parlé là du traitement, mais interviennent dans le traitement et la prise en charge des patientes toute l'équipe paramédicale, que ce soit infirmière, aide-soignante, manipulateur, assistante sociale, diététicienne, psychologue et socio-esthéticienne. Donc il est bien important de comprendre que effectivement c'est une maladie qui fait peur, mais en aucune façon, la patiente, à un moment donné, doit se sentir seule dans son parcours. On est tous là autour d'elle pour la prendre en charge, pour l'aider dans les moments plus ou moins difficiles. Et je reviens là-dessus. Une patiente a sa maladie qui n'est pas celle de la voisine et elle réagira au traitement à sa façon. Merci.
Bien, merci Stéphanie. Donc, je pense que vous avez eu une quantité d'informations non négligeable. Je remercie nos trois orateurs d'avoir été tout de même très clairs sur chacune de leurs présentations. Rien n'est simple. Le traitement est adapté. Vous pouvez constater que ce soit dans le domaine du dépistage, que ce soit dans le domaine de l'imagerie avec la radiologie, que ce soit dans le domaine du traitement, on est plus libre de faire ce qu'on veut, heureusement. C'est-à-dire que tout est codifié, tout est réfléchi, tout est décidé de façon pluridisciplinaire, ce qui peut garantir le meilleur traitement pour les personnes qui sont atteintes, hélas, de cette maladie. Alors, on nous a rappelé à l'ordre, parce qu'il faut faire vite, mais j'ai préféré... Non, je rigole. Mais j'ai préféré tout de même que, étant donné la clarté des exposés qui ont été faits, ne pas brusquer les intervenants de façon à ce que vous ayez le maximum d'informations. On va peut-être rétrécir sur les questions, mais donc on est prêt à répondre. Enfin, ils sont prêts aussi à répondre à vos questions. Alors, il y a deux solutions. Soit vous dormez, soit vous... Donc, Sylvie, pas de questions ? Non, Sylvie n'a pas de questions. Oui, ça vient. Non, non, mais ça me permet de marcher un peu.
Merci. Vous avez évoqué, je crois, la moindre efficacité de la mammographie avant 50 ans. Quel examen de prévention pour une jeune femme dont, par exemple, la mère aurait eu déjà elle-même un cancer jeune ?
Là, je vais répondre juste deux secondes avant. Le docteur Moumou, c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé, et le docteur Coste pourra nous le dire aussi, on a parlé du dépistage organisé dans la population générale. Il faut exclure de ce dépistage organisé, les personnes à risque, les personnes qui ont déjà eu un cancer, et puis il y a le problème du cancer familial. Bon, il n'est pas fréquent, mais il existe. Et donc là, je pense qu'on est en dehors des clous. Et donc, je vais laisser parler de Dr. Coste, parce que là, la surveillance est complètement différente.
Oui, non, non. Au point de vue dépistage organisé, je vous ai bien précisé que c'était les femmes, je dirais, sans risque particulier, qu'à partir du moment où il y avait un risque individuel, une femme suivie déjà pour un cancer, ou un risque familial, on était dans le cadre d'un suivi individuel. Donc on est hors campagne de dépistage, et le suivi, c'est la mammographie, toujours, mais avec...
Oui, une mammo plus ou moins écho, voire plus, si nécessaire, en fonction de ce qu'on va trouver chez cette patiente. C'est-à-dire, il y a d'abord la mammographie, c'est sûr, c'est l'examen de base, plus ou moins échographie, voire IRM, s'il y a des doutes diagnostiques.
La surveillance sera plus soutenue. Absolument. Plus
régulière. Oui, tout à fait.
Pour dire une précision quand même sur la tranche d'âge, il y a actuellement toute une réflexion sur la possibilité, dans le cadre du dépistage organisé, donc s'adressant à la population générale sans risque particulier, de faire démarrer ce dépistage avant l'âge de 50 ans, peut-être à l'âge de 45 ans, et de le prolonger après 75 ans. Et l'Institut national du cancer a lancé au mois de juillet des appels à candidature pour les structures de gestion qui voudraient se lancer dans une expérimentation sur ces nouvelles tranches d'âge, sur l'élargissement des tranches d'âge.
Donc, en gros, si dans votre famille, il y a eu un antécédent de cancer dans une population qu'on va appeler de première génération, en particulier la mère, la tante, vous ne rentrez plus dans ce domaine de dépistage tous les 2 ans. Normalement, la personne qui a pris en charge la patiente qui avait le cancer a dû en informer la famille, charge à la famille après de rentrer dans un système qui est différent avec une surveillance qui est beaucoup stricte tout de même. Stéphanie, il n'y a pas d'âge vraiment.
Il est habituellement recommandé de commencer 5 ans avant l'âge du diagnostic de la personne qui a été concernée. C'est-à-dire que si notre maman a eu un cancer du sein à l'âge de 45 ans, il est normal de commencer à partir de 40 ans. En fait, c'est ce qui est recommandé. Après, il y a toute la partie femmes à haut risque où là, c'est totalement différent. Elles ont une surveillance bien particulière, en fait. C'est pas parce que notre maman a eu un cancer du sein à 45 ans qu'on va forcément rentrer dans la surveillance alternée, mammo-écho, IRM, comme l'a présenté le docteur Moumou, concernant certaines femmes à haut risque. Mais sinon, il est recommandé 5 ans avant l'âge du diagnostic du cancer de notre maman ou à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre des campagnes de dépistage.
Oui, quand on est concerné par des cancers de très jeunes femmes à 24 ans, par exemple, on a l'impression d'être laissé pour compte parce qu'on n'a aucune information. On a vraiment l'impression que ce ne sont que les femmes à partir de 50 ans. Et on ne sait pas vers quel sein se tourner en disant pour avoir des enfants, on se sent un peu délaissé.
Stéphanie. Stéphanie, là, je la sens remonter. Là.
Non, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec cela. D'abord, une femme jeune de moins de 35 ans, maintenant on élargit même jusqu'à moins de 40 ans, on propose ce qu'on appelle une consultation d'oncogénétique, d'abord pour définir une politique de surveillance pour la personne concernée et toutes les femmes de la famille qui souhaitent connaître des modalités de dépistage particuliers. Par ailleurs, je crois qu'après, c'est un discours avec les médecins qui prennent en charge la patiente. Dans le cadre des femmes jeunes que l'on prend en charge, ça fait partie des questions, ça fait partie des interrogations. Est-ce qu'il y a un désir de grossesse? Quand est-ce que cette grossesse va pouvoir être engagée? Quelles précautions faudra-t-il prendre? Tout ça, ça fait partie en fait de la prise en charge d'une patiente jeune. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, les patientes jeunes, elles arrivent dans les bureaux des chimiothérapeutes parce que c'est des maladies souvent un peu plus agressive. Donc ça fait partie de la consultation, peut-être pas dès la consultation d'annonce, si on parle de la consultation d'oncogénétique, si les questions sont abordées par la patiente, on les évoque, comme on évoquera forcément le problème d'aménorrhée, on parlera un petit peu des soucis libido, des problèmes effectivement de grossesse, mais en expliquant qu'une femme jeune, dans la très grande majorité des cas, va retrouver ses cycles quelques temps après la fin de la chimiothérapie, pourra engager une grossesse. Il n'y a pas de risque à faire un enfant après avoir eu un cancer du sein, tout du moins on ne majore pas le risque de récidive. Tout ça, c'est exposé. Alors après, bon ben on, ce soir, on ne répond pas au cas par cas de chaque personne, mais il me semble que ça fait partie du contenu de chaque consultation que l'on a avec une patiente jeune qui a été prise en charge pour un cancer du sein. Son souhait de grossesse, sa vie sexuelle, son... Voilà, oui. Alors après, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre plus en amont.
Est-ce qu'on a un peu répondu à votre question ? Il faut savoir que les choses ont tout de même évolué depuis quelques temps. D'abord, on a des... Je ne dis pas des contraintes, mais on a des règles de fonctionnement. On a des contrôles. Il faut savoir que pour être labellisé... on est contrôlé sur la façon dont on prend en charge les gens, sur les réunions de concertation, à titre d'exemple, mais ça, ce n'est pas que dans le cancer du sein, c'est pour vous donner un titre d'exemple, régulièrement, il est tiré au sort un certain nombre de dossiers de patients, et il est vérifié qu'il y ait bien eu une décision pluridisciplinaire dans la prise en charge. Donc, c'est des dossiers qui sont tirés au sort régulièrement, tous les 6 mois. Donc, si vous aimez mieux, notre crédibilité est aussi mise en jeu. Il faut être clair là-dessus. Donc, on ne fait plus n'importe quoi. Et c'est vrai que je connais bien les médecins qui s'occupent chez moi du cancer du sein. Il y a Stéphanie et il y a Nadia. Je pense que leur sensibilité féminine font qu'ils négligent rien, même jusqu'à l'ostéoporose et tous ces problèmes qui peuvent intervenir avec le traitement. L'objectif, il est tout de même, dans le nouveau plan cancer, on parle du traitement du cancer, mais on parle aussi du après-cancer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 20 ans, le après-cancer n'existait pas. On mourait d'un cancer. Maintenant, le après-cancer, ça veut dire que les gens vont vivre, ils vont guérir après leur cancer. Et donc, il faut commencer tout de même à réfléchir à la gestion du handicap, la gestion de l'image de soi, et ainsi de suite. Et donc, je pense que tout ça, c'est l'étape qui va arriver... 2010-2013, nouveau plan cancer, c'est ça, c'est le après-cancer. Je pense que c'est même intéressant de commencer à parler du après-cancer, alors qu'avant, on parlait du traitement du cancer. D'autres questions ? Est-ce que vous avez eu des informations ? Est-ce que vous avez globalement été satisfait de toutes ces informations ? Qu'on vous a donné, est-ce que ça vous a éclairé un peu ? Et puis, est-ce que ça vous a fait comprendre que le dépistage, c'est important ? D'accord ? Alors, on parlait du dépistage, un petit peu, on va déborder un petit peu, du cancer du sein. Donc, on a vu 55-58%, c'est pas suffisant. Je vous parle pas de l'exhaustivité du cancer du côlon. Encore pire, si vous avez mieux fait. Donc là, on est mal parti. On est pas mal parti. Ben, j'espère que tu vas rectifier le tir. Parce que vous êtes aussi tous concernés par ça.
Non. On n'a qu'un an et demi de fonctionnement de dépistage cancer colon, donc presque 2 ans maintenant. Et sur la première année, on a eu 42% de taux de participation. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est l'année du démarrage. Hein. Et au niveau national, ils demandent 50% pour l'instant de taux de participation parce qu'ils ont bien conscience... au niveau des autorités de l'INCa et du ministère, que la mammographie était déjà quelque chose qui était bien rentré dans les mœurs avant le dépistage organisé, alors que la recherche de sang dans les selles, les mots cultes, est quand même quelque chose de plus difficile
à réaliser, soyons clairs. Voilà.
Donc, c'est, la première année n'a pas été... On était plutôt contents. Hein. Mais après, il faut maintenir et augmenter.
Est-ce que vous avez encore des questions à poser ?
Je n'étais pas là, j'ai entendu une partie quand même. Je voulais vous poser une question par rapport à DocVie, le fait qu'on fait des mammographies et qu'ensuite il y a un diagnostic qui est fait par 2 personnes ou revu par 2 personnes. Il y a des gens qui se trouvent dans la situation où en fait après ils reçoivent un courrier, si j'ai entendu ça, courrier DocVie qui dit bon écoutez votre diagnostic là, il n'est pas terrible, allez revoir votre médecin. Alors, bon, quand on a fait la mammographie, que la mammographie est correcte et qu'on reçoit ça, je me dis que ça fait un choc parce que c'est envoyé par la poste. Donc, voilà, on se dit, ça y est, on a un cancer, etc. Donc, on file revoir, revoir le radiologue. Donc, je pense que même si c'est très bien fait aussi pour la recherche du cancer du côlon, je crois qu'il faudrait faire attention un petit peu à la manière dont on traite les gens. Parce que c'est complètement informel, un courrier. Il vaudrait mieux peut-être téléphoner à la personne, parce que je vous dis que ça fait un choc de recevoir ça, même si après, il n'y a pas de souci. Donc, le médecin qui a été vu par cette personne a dit, écoutez, moi, DocVie, j'en ai marre, je ne tiens plus compte de ce qu'ils ont fait. Moi, ça fait des années que je fais des mammographies. Il n'y a pas de problème, mon diagnostic, il est bon. Donc, voilà, je me suis posé cette question après avoir entendu cette histoire que je vous raconte, qui est vraie.
Là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, la première chose, la lettre ne dit pas aux gens vos diagnostics sont mauvais, etc. C'est une lettre qui dit, après deuxième lecture, il serait souhaitable de reconsulter votre premier radiologue. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil.
Ça fait paniquer quand même.
La deuxième chose, excusez-moi de vous dire, madame, mais c'est quand même relativement grave, celle du radiologue, je suppose, qui vous dit qu'il travaille hors campagne parce qu'il est meilleur que les autres. Bon, mais ça, je crois que
pas,
c'est
pas hors campagne, mais c'est que le radiologue, il dit, ben, moi, de toute façon,
c'est ce que vous me dites. J'en ai, voilà. Il dit, je fais tout seul, mieux. Monsieur Tourani vient de vous expliquer que maintenant tout est cadré, tout est bien organisé en France. Vous n'étiez pas là dans le début de mon intervention, mais j'ai dit qu'en France, on n'avait pas une culture de santé publique, que c'était une culture individuelle et chacun pour soi. Eh ben, vous venez d'en apporter une preuve. Ouais. Alors après, pour ce qui est de donner le résultat. Autrement, on pourrait donner le résultat uniquement au médecin traitant en lui disant, lui, d'appeler la patiente. Oui. Mais il y a aussi, après, un problème médico-légal. S'il ne le fait pas, on va nous dire que nous, on est dans notre tort. Hein? Donc, c'est vrai que c'est une des grosses difficultés des campagnes de dépistage, c'est qu'on inquiète des gens. Oui, oui. Hein? Mais tout examen médical inquiète des gens. Chaque fois que vous allez vous faire faire une radio indépendamment d'un dépistage organisé. Chaque fois que vous allez faire un examen de sang, une prise de sang, vous avez une angoisse quand même. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut, sur le résultat, vous dire, ben, y a un problème. Voilà.
Il y a un mot qui a été dit, il y a une phrase qui a été dite tout à l'heure. C'est pas parce que on reconvoque une personne, parce qu'on a trouvé quelque chose de curieux, qu'il y a un cancer. D'accord ? Il faut bien être clair là-dessus. Le diagnostic de cancer, il ne sera fait que quand on aura prélevé un morceau de l'image et que l'on aura dit il y a des cellules cancéreuses. Il faut savoir que ça fait partie de nos règles à nous de cancérologues. On ne peut pas prononcer le mot de cancer à quelqu'un si on n'en a pas la preuve à l'examen. Même si c'est évident, on ne peut pas. D'accord ? Donc, il faut bien faire la part des choses, c'est il y a une anomalie d'imagerie, il faut éclaircir le problème. Mais ce n'est pas on vous reconvoque parce que vous avez sans doute un cancer. Non, ce n'est rien. Ce n'est pas ça.
Non, la phrase, c'est simplement, après deuxième lecture, il semble souhaitable que vous revoyiez votre radiologue, votre premier radiologue.
Alors c'est vrai que notre culture, elle est cocooning, machin truc, on va voir son radiologue, on discute avec son radiologue, on rentre dans un système qui, je vais dire, est plutôt genre un peu rouleau compresseur. Mais je suis désolé, il est plus sécuritaire que le cocooning et ainsi de suite. Maintenant, ça convient pas. On a tout de même une culture qui est plus latine que nordique et ça passe pas. On le sait que ça passe pas. Mais on n'a pas le choix. Dans le domaine de la santé publique, il est difficile de faire autrement. Je ne sais pas, Stéphanie, ce que tu en penses. Mais...
Non, c'est vrai qu'effectivement, on peut difficilement faire autrement. Et je crois que c'est quand même important de rentrer dans les campagnes de dépistage, même si on a l'impression qu'on rentre dans quelque chose de très codifié et que, comme vous le dites, ce n'est pas notre façon de faire. Mais c'est nettement mieux.
Un dernier exemple. Ce matin, j'étais sur France Bleu à 9h-9h30 et on a eu un coup de téléphone d'une personne qui m'a dit « Mais je comprends pas, je reçois, et ça je te le dis à toi, ça fait deux ou trois fois que je reçois ma convocation ou mon invitation à faire des dépistages, mais j'ai déjà eu un cancer du sein. » Et j'ai dit « Est-ce que vous avez prévenu DocVie ?»« Oui, je les ai prévenus. » Mais il me dit « Je continue à recevoir. » Bien sûr qu'il y a des bugs, bien sûr qu'il y a des gains. Bon, Mais ce que je veux dire, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut pas savoir ça à l'échelon individuel, il faut voir à l'échelon de la société et de la collectivité. Si on arrive à diminuer la mortalité, eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. D'accord ? Pour la société, pour vous, en termes d'impôts, en termes de coûts de la santé, oui, c'est intéressant. Pas d'autres questions ? Oui, si, une dernière.
Je voudrais demander sur l'hormonothérapie pour demander quels sont les effets indésirables. Ben, j'en connais quelques-uns, mais je voudrais.
Alors effectivement, il y en a un certain nombre, même si c'est un comprimé et que souvent les patientes se disent celui-là, ça va mieux se passer que la chimio, ce n'est pas forcément le cas. Donc j'ai présenté deux familles d'hormonothérapie. La première famille, les anti-œstrogènes, ceux qui viennent en fait bloquer au niveau du récepteur, peuvent entraîner des bouffées de chaleur. Il y a des risques de phlébite un petit peu plus importants. Et parce que c'est écrit, j'en reparle, c'est vrai qu'à une époque où le tamoxifène était utilisé au-delà de 5 années, sans avoir une surveillance gynécologique régulière, on a vu qu'il y avait un nombre de cancers de l'endomètre un petit peu plus important chez les patientes qui utilisaient le tamoxifène. Cette information est donnée à chaque patiente qui va avoir à prendre ce traitement-là en lui disant qu'il faut qu'elle ait une surveillance régulière au niveau de son gynécologue et ce n'est jamais prescrit au-delà de 5 ans. Donc voilà, c'est normal de l'écrire, mais c'est vraiment un chiffre infime, mais n'empêche que c'est une idée qui reste là et c'est forcément un mot qui fait peur dès qu'on dit on traite un cancer, on risque d'en créer un autre. L'autre famille, les anti-aromatases, est une famille qui crée d'importantes douleurs articulaires, voilà, ostéo-articulaires. C'est important de le dire, d'en informer la patiente, parce qu'elle va commencer à prendre un traitement et elle risque. Ça ne veut pas dire que toute patiente va avoir ce type de symptômes. Mais ça peut arriver, cette sensation en fait, de raideur matinale, d'enraidissement lorsqu'on est en position statique prolongée. Et une douleur, un antécédent de cancer, ça y est, qu'est-ce qui m'arrive ? Donc c'est bien important d'expliquer à la patiente qui va démarrer ce traitement que ça peut arriver. Si ça arrive, lui donner des consignes par rapport à l'utilisation des antalgiques. Et quand elle peut accepter sa douleur, qu'elle la juge tolérable, on sait qu'en continuant le traitement, les douleurs vont en diminuant. Alors, est-ce qu'on s'y habitue à ces douleurs ou est-ce que réellement elles diminuent ? Ça, c'est totalement subjectif et on ne peut pas le dire. En sachant que aussi les anti-aromatases peuvent aggraver un petit peu les risques d'ostéoporose. Donc, tout à l'heure, M. Tourani disait qu'on est des acharnés du dépistage de l'ostéoporose. Mais oui, parce que c'est la même chose. On est là pour aider nos patientes à continuer d'aller bien. On n'a pas envie qu'elles se cassent à cause de notre traitement. Attention, je ne suis pas en train de dire que les anti-aromatases vont entraîner une cassure par ostéoporose. Mais simplement, conjointement à la mise en place de ce traitement, il y a un dosage de la vitamine D, il y a une ostéodensitométrie, il y a éventuellement des mesures qui sont mises en place. Parce que peut-être la patiente a déjà en fait une fragilité osseuse qui existe et il faut la contrecarrer de manière à ce que le traitement en fait se passe bien. D'autre part, on se rend compte que les anti-aromatases, donc ceux qui donnent les douleurs ostéo-articulaires, en donnent beaucoup plus des douleurs lorsqu'ils sont introduits de manière rapprochée par rapport à la date de la ménopause. Une femme qui va avoir 70 ans, qui n'aura pas pris de traitement hormonal substitutif et qui va être ménopausée depuis un certain nombre d'années, ressentira beaucoup moins de douleurs qu'une patiente qui va avoir 55 ans, qui est ménopausée depuis peut-être peu de temps. Et là où les douleurs sont parfois encore plus difficiles à gérer, c'est les patientes qui étaient en périménopause, qu'on a ménopausées par le fait de la chimio, et qui là vont démarrer un traitement par anti-aromatase, et c'est celles qui le plus souvent souffrent de douleurs ostéo-articulaires relativement importantes. Donc on ne dit pas, bah, écoutez, souffrez et attendez, non, on dit on va essayer de donner un traitement. On travaille en collaboration avec nos collègues rhumatologues. Sur l'hôpital, on a madame le professeur Debiet qui a la spécificité de s'occuper des problèmes d'ostéoporose et qui est maintenant une des référentes au niveau national concernant justement les douleurs ostéo-articulaires induites par les anti-aromatases. Donc on travaille vraiment énormément avec elle. Il est vrai qu'hélas, elle nous dit, à part les antalgiques, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut être donné. Maintenant, il faut savoir que
On a peut-être fait le choix de dire que cette patiente, on va lui donner des anti-aromatases, mais si vraiment la douleur elle est trop importante, eh bien on lui proposera de prendre des anti-œstrogènes. Elle aura un meilleur confort de vie et elle sera protégée des risques de récidive. Mais c'est vrai que ce n'est pas parce que c'est un comprimé qui lui fait pas tomber les cheveux qu'il se passe forcément si bien que ça.
Merci Stéphanie. De la façon dont tu parles, ça montre bien qu'il n'y a pas que le cancer qu'on prend en charge. Il y a un cancer, mais il y a une personne derrière et que la prise en charge du traitement, c'est le traitement de la personne et pas nécessairement que du cancer. Et donc ça, c'est une grande évolution que l'on a depuis tout de même plus de 20 ans, à savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le cancer, il y a le après-cancer et que les souvenirs et les mauvais souvenirs doivent être les plus petit possible, ça doit être de l'histoire ancienne à un moment ou à un autre, c'est ça notre objectif aussi. Et donc moi je remercie les médecins qui travaillent avec moi sur ce côté humain qu'ils ont dans la prise en charge de leurs patientes. Ils ne voient pas que le cancer et puis pas le malade qu'il y a derrière, ils voient le malade d'abord et puis on fait avec ce qu'il y a et puis on fait avec les gens. Et comme l'a dit Stéphanie, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, il n'y a pas deux personnes qui supportent les traitements de façon identique, chacun et heureusement. Si toute la Terre était faite des mêmes personnes, on en aurait vite marre. Voilà, chacun a sa spécificité, même parmi les médecins. Il y a des médecins qui ont leur spécificité, qui ont besoin qu'ils passent, des médecins qui passent moins bien, mais c'est comme ça, c'est pour tout. Donc, si vous n'avez pas... C'est une question encore. Ça vient petit à petit, les questions.
Non, je voulais juste dire, si on oublie de prendre le comprimé pour la patiente,
c'est pas grave.
Pas grave.
N'en prenez pas deux le lendemain.
Voilà,
non, sur des traitements qui durent des années, c'est pas grave. Hein. Bon, faut pas se culpabiliser pour ça. Ça va rien changer du tout. Il faut rester calme sur tout ça. Je pense qu'on vous a expliqué calmement comment tout ça se passait, Stéphanie.
Non, c'est juste pour dire que voilà, pas d'inquiétude si un jour on oublie. Et quand on parle de la chimiothérapie, il y a un rythme à respecter, mais on sait évoluer aussi. Il y a certaines périodes dans l'année où on évite de faire le traitement de chimiothérapie. Voilà, on peut s'octroyer un décalage. Ça ne veut pas dire faites tout ce que vous voulez avec votre comprimé. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ne soyez pas inquiets si un jour vous l'oubliez ou si vous êtes parti en vacances et il reste 3 jours et vous en avez plus et il n'y a pas l'ordonnance. Voilà, ce n'est pas grave. Ça peut arriver.
Il ne faut pas se prendre la tête. D'accord ? Voilà, c'est tout. Nous, on arrive à ne pas traiter des gens entre Noël et les jours de l'an, et ça, vous le comprendrez bien. D'accord ? On a des périodes de calme, tout de même. C'est pareil. Les 15 premiers jours d'août, généralement, c'est un peu plus calme. Bon. Et on ne se permettrait pas de mettre des gens en perte de chance. Il faut être clair là-dessus.
Je voulais demander le médicament générique.
Oui.
Je pense qu'il ne faut pas... disons, avoir une opinion négative des génériques. Quand on parle, par exemple, du tamoxifène, je peux vous dire que le médicament princeps, c'était le Nolvadex, qui doit dater des années 1980, et il y a bien longtemps que tout le monde a oublié la molécule princeps. Bien. S'il n'y a plus de questions, je voudrais tout de même vous remercier d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et de nous avoir consacré quelques temps. Ça veut dire que vous étiez intéressé par ce qu'on devait vous dire. Maintenant, en contrepartie, je pense qu'on a répondu à votre demande et il doit y avoir une enquête de satisfaction qui va être faite. Je tenais aussi à remercier l'Espace Mendès France qui nous a accueillis ce soir. Octobre Rose, c'est quelque chose qui est important pour nous et qui, j'espère, va prendre de plus en plus d'importance. Non, je ne vais pas oublier... Il y a d'autres manifestations qui n'auront pas lieu ici. Alors, il y a tout de même 3 manifestations au pôle régional de cancérologie dans le hall d'entrée. La première concerne quelle solution après une chirurgie du cancer du sein qui aura lieu le jeudi 7 octobre à 15h30. Une deuxième, et ça on en a parlé, du après-cancer. Vous voyez comme quoi ça vient tout de même. C'est sexualité et cancer, c'est quelque chose aussi qui est important. Et donc, on sera le jeudi 14 octobre à 15h30. Et puis, je les reconnais bien, celles qui ont inventé les thèmes de tout ça. Mieux vivre sa féminité dans la maladie, le jeudi 21 octobre à 15h30 au pôle de cancérologie. Je vous invite à venir si vous êtes intéressé et puis surtout à transmettre cette information. Parce que si vous en avez tiré quelque chose d'important pour vous, ben, transmettez aux autres que la politique de l'autruche, ce n'est pas la bonne politique et qu'on peut affronter les choses de face et ça se passe généralement beaucoup mieux. Je vous remercie.